Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Tech Café, c'est votre rendez-vous qui parle de tech, de tous ses usages. Je suis Guillaume Vendée et ce 35e épisode est enregistré le 15 septembre 2016. Pour cet épisode de Tech Café, je suis accompagné de deux compères que vous connaissez désormais bien, Tom, Comte, Oxide. Salut, comment vas-tu ?
Salut, moi je suis là pour parler de café.
C'est bien, parce qu'on nous a reproché, je dirais pas qui, mais qu'on parlait pas assez de café dans Tech Café, donc il est important de le faire. Guillaume, Poggiaspala, salut, comment vas-tu ?
Ben, ça va, moi je peux parler de café, c'est bon le café.
C'est très bon le café.
Ben oui, c'est bon pour la santé en plus.
C'est très bon pour la santé. Un petit commentaire iTunes d'entrée de jeu. Un podcast qui a bien grandi et où la qualité technique des intervenants est un réel plaisir à écouter. Et c'est Radbert qui a déposé ce commentaire sur iTunes. Merci à toi d'avoir écouté notre appel parce que je trouve que vous n'avez pas été très nombreux à suivre la demande que j'avais faite de déposer des commentaires sur iTunes. Donc merci beaucoup à toi. Et puis je compte sur vous si vous n'avez pas déposé votre commentaire sur iTunes ou si jamais vous voulez aller le mettre à jour ou créer un faux compte pour en déposer en plus. Non, ça c'est pas bien. On compte sur vous. Un petit retour sur les émissions précédentes puisqu'on avait parlé avec notamment Pierre-Olivier et Cédric dans l'épisode 34 de l'arrivée fort probable, ça se sentait, hein, c'était même plus des rumeurs, de l'iPhone 7 qui aurait été séparé de sa prise jack, notamment, hein, on va pas faire le tour de toutes les nouvelles autour de l'iPhone 7. Malgré tout, c'était un point important. Tom, ça te fait quoi de savoir que tôt ou tard, tu auras un iPhone sans prise jack ?
Moi, je suis content, moi. Ça fait des années que j'utilise plus aucune prise jack sur aucun appareil, à part maintenant pour enregistrer un podcast. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un seul problème au niveau du Bluetooth et pas tellement pour la musique, c'est surtout la latence au niveau de certains jeux. C'est le seul problème que je vois, sinon moi je suis heureux, un câble en moins, youhou.
Vive la fin des câbles, c'est marrant, ça dénote quand même de la vie de Pierre-Olivier. Alors Guillaume, je ne peux pas non plus ne pas te poser la question, est-ce que ça t'angoisse de savoir qu'à terme il n'y aura plus de prise jack? Parce que ne nous leurrons pas, même si on n'achète pas d'iPhone, on peut être à peu près certain que les autres appareils en face, tôt ou tard, viendront probablement abandonner aussi la prise jack. Ça te fait quoi?
Ah, mais moi je suis la Team Pod, carrément, hein. Team Pod en force, hein. C'est non, moi je pense que c'est une grosse connerie, hein, honnêtement. C'est
on va pouvoir débattre 5 minutes alors. Pourquoi c'est une grosse connerie?
Bah, c'est une grosse connerie parce que globalement, la prise jack, qu'est-ce qu'on lui reproche? Je veux dire, elle fait son taf. Je veux bien que tout le monde utilise ou que, voilà, que beaucoup de gens utilisent des casques sans fil. Moi-même, j'en utilise de temps en temps des casques Bluetooth. D'ailleurs, je ne suis pas particulièrement ravi parce que moi, souvent, j'ai des coupures. Par exemple, quand il y a des interférences électriques, et moi, quand je mets en route mon four à micro-ondes, ben, j'arrive plus à écouter la musique. Je sais, je devrais m'inquiéter pour mon four à micro-ondes. Mais bon, c'est quand même un problème, tu vois.
T'as peut-être dedans, trop, non ?
Non, mais tu rigoles, mais pendant que je fais la vaisselle, si je fais tourner un truc au micro-ondes, ça passe plus.
Ah, c'est fou. Bon.
Ben non, c'est pas fou, parce que c'est, un micro-ondes, quand il perd, ben, quand il fuit, ben, c'est,
ah oui.
Ça fuit dans la même gamme de fréquences, donc non, c'est pas tout à fait incroyable, mais bon, ben, ça, si tu veux, c'est une anecdote, mais bon, globalement, moi, je trouve que la prise jack, c'est une solution très simple pour faire un truc simple, c'est-à-dire écouter de la musique, quoi, et en fait, il n'y a pas réellement de limitation technologique. Je veux dire, la qualité, elle est bonne. Ça consomme pas d'énergie, enfin c'est passif, c'est très simple à faire, alors qu'un casque sans fil, ben, dedans il y a forcément plus d'électronique, il y a forcément une batterie, il y a aucun problème d'autonomie, alors que forcément dans un casque Bluetooth, ben, vous avez une autonomie limitée, et tout ça, si tu veux, pour moi c'est pas réellement un progrès. Avoir le choix, très bien, avoir du fil ou pas de fil, très bien, mais être forcé d'utiliser du sans fil dans tous les cas, moi, c'est une régression.
Ah, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, ils n'ont pas enlevé le jack, ils l'ont optimisé sur le port Lightning.
Ils l'ont optimisé. Ouais, mais du coup, tu peux plus recharger, tu peux pas utiliser ton port Lightning pendant que tu écoutes de la musique.
Ouais, mais est-ce que c'est
des podcasts de qualité.
Est-ce que ça arrive souvent au final? Est-ce que moi, ça m'est jamais arrivé d'écouter mon téléphone, même en Bluetooth, hein, ou pas en Bluetooth, branché sur du Lightning, ça m'est en train de recharger, ça m'est jamais arrivé, je pense. Donc c'est peut-être une utilisation qui est hors de mon utilisation, mais c'est quelque chose qui me paraît pas ouais, ça me paraît pas hyper hyper grave. C'est un peu comme à l'époque quand la disquette avait disparu, tu sais, on se disait ouais, comment on va faire pour faire des transferts. Bah on les a fait autrement.
Non, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Je pense qu'on se plante quand on dit ça pour une raison très simple, c'est que quand la disquette a disparu, elle est disparue parce qu'elle a vu elle représentait une limitation technologique. C'est-à-dire qu'elle ne faisait plus le boulot suffisamment bien. Une disquette, c'est fait pour stocker de la donnée et y accéder. Bon, une disquette, ok, c'était tout petit, c'était très très long, et on avait mieux à côté, donc la disquette est en main d'obsolescence, bon, ben, c'est normal, je ne vais pas revenir là-dessus. Le casque audio, Surprise Jack, il n'a aucune limitation de cet ordre-là. Vous le branchez, vous avez de la musique d'une qualité qui est excellente, ça dépend de la qualité de votre casque, et puis c'est tout. Et il fait toujours le même boulot, et il fait toujours, c'est toujours très bien. Donc il n'y a pas de limitation technologique qui pousse inévitablement à virer la prise jack. Et moi, ce qui m'a le plus énervé, peut-être d'ailleurs, c'est qu'Apple ose appeler ça du courage. C'était du courage de limiter les fonctionnalités des utilisateurs.
C'est pas les premiers, je crois que c'est Motorola qui les ont, ou Lenovo, je ne sais plus qui d'ailleurs, bah, c'est la même chose, qui ont viré les prises jack sur certains
ouais,
appareils.
Alors c'est vrai que ce qu'ils veulent dire par le courage, et là c'est très orgueilleux de leur part, mais il y a une partie de vrai, c'est que lorsqu'Apple adopte une technologie, ça force un petit peu les autres à le faire aussi. Et c'est vrai que si Lenovo le fait, ça fait pas comme si Apple le fait. Et c'est peut-être là où c'est très très fort. Moi, je vous avoue que je suis très très. J'ai peu d'avis sur cette histoire d'absence de port jack. Parfois, ça m'emmerde quand j'y pense. Il y a qu'à brancher mon micro cravate dessus sur mon iPhone 6 aujourd'hui pour me rendre compte que ça va me manquer. En même temps, il va y avoir effectivement des adaptateurs. Donc, en même temps, ces adaptateurs vont me faire chier. Donc, je suis très partagé. Après, il y a un point quand même, Guillaume. Je pense que si jamais on part sur l'idée de dire qu'on abandonne la prise jack, on le fait complètement. Et on s'amuse pas, je pense, à utiliser souvent un casque filaire. Si jamais on est d'accord avec la philosophie de se passer de prise jack, eh ben on va jusqu'au bout, on s'achète les AirPods ou d'autres casques d'ailleurs sans fil, et on écoute ça pendant que le smartphone recharge. Et je crois que c'est le cas d'usage qui est dépeint par Apple, qu'on soit d'accord ou pas, hein, d'ailleurs, avec cette vision des choses qui est assez manichéenne. Moi, je voulais juste revenir sur un petit point, et puis on va redétailler de toute façon un petit peu les annonces, celles qu'on a envie de souligner dans la keynote Apple. Moi, je voulais quand même juste souligner quelque chose par rapport à ces AirPods. On ne l'avait pas mis dans le doc des émissions, mais je suis tombé sur un très bon article de Slate sur le sujet, qui détaille un petit peu ce que sont ces écouteurs, au-delà du fait qu'ils sont effectivement tout petits et moi personnellement j'aurais peur de les perdre. Il y a quand même il faut quand même reconnaître que ce sont des petits bijoux de technologie. Il y a toute une intelligence derrière, il y a plus que des batteries, il y a plus qu'un appairage Bluetooth. D'ailleurs, le fait de les synchroniser, de les appairer avec l'appareil, ça a été expliqué, c'est un peu du Bluetooth propriétaire, donc encore une fois c'est pas forcément symbole d'ouverture, mais il y a une espèce de symbiose dans les écouteurs et les iPhones. Donc quand on les utilise, ça a l'air d'être assez fluide. Et puis il y a plein de petits trucs, ne serait-ce que le fait que quand on enlève un écouteur, ça met sur pause. Le fait que quand on met un écouteur et non pas les deux, il diffuse le son des deux côtés, des deux channels dans un seul des écouteurs de manière intelligente en mono, en stéréo. Il y a des choses qui sont quand même vachement malignes, je trouve, derrière cet appareil. Et je me demande si on n'est pas passé un petit peu à côté de la prouesse technologique que c'est. Et d'ailleurs, Apple insiste pas trop dessus. Hein. Je pense que c'est assez volontaire qu'on se rende compte dans les usages et dans le détail du produit. C'était pas le lieu de la keynote, mais moi, je pense que c'est peut-être le produit de loin le plus épatant de cette keynote, en fait. Qu'on aime ou pas, hein, la présence de prise jack.
Oui, et un truc que j'admire, en tout cas, sur les AirPods, et qui est un truc extrêmement difficile à faire, c'est qu'ils arrivent à synchroniser les deux oreilles sans fil. Et ça, j'avais déjà essayé des casques Bluetooth, et donc avec les deux oreilles séparées, complètement séparées, et il y avait toujours, souvent, des décalages, effectivement, des coupures, comme disait Guillaume tout à l'heure. Et là, je pense qu'apparemment, en tout cas, les premiers tests ont l'air d'aller dans ce sens-là. C'est hyper bien synchronisé. C'est-à-dire que l'oreille droite va toujours avec l'oreille gauche. Et ça, c'est hyper difficile à faire. Quand tu as un fil qui passe derrière le cou ou sous la gorge, ça, c'est beaucoup plus simple. Mais là-dessus, je pense que Guillaume a peut-être plus de détails que moi. Mais c'est vrai que synchroniser deux appareils sur le même, la même source de son comme ça, c'est pas si simple que ça. Donc, comme tu dis, c'est des petits bijoux technologiques, à mon avis.
Alors justement, Guillaume, est-ce que tu les as détaillés un petit peu? Alors c'est 179 €, hein, c'est pas donné. Est-ce que pour toi, ça les vaut? Encore une fois, on essaie de se placer dans la situation de « je ne veux plus de prise jack, je veux un dispositif d'écoute et micro hein, ». D'ailleurs, on peut parler à Siri dedans de manière assez facile a priori. Est-ce que tu trouves que c'est une prouesse technologique comme nous ou est-ce que non, ça te laisse un petit peu...
Oui, oui, non. Alors si tu veux, je dis pas que les AirPods, c'est du caca et que c'est... Non. Non, c'est pas du tout une arnaque. Hein. Ce sont, à mon avis, effectivement, c'est vraiment une prouesse technologique. C'est très difficile, effectivement, de se débarrasser des lags qu'on a souvent avec le casque Bluetooth. Et donc, il y a déjà du lag entre l'émetteur et le récepteur. Et là, il y a deux. Il faut effectivement synchroniser deux récepteurs. Donc, c'est encore plus difficile. Je ne dirais pas que c'est un exploit, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres qui pourraient. Enfin, ça a peut-être déjà été fait. Mais en tous les cas, c'est vraiment très, très bien. Moi, ce qui me dérange, c'est pas vraiment que les AirPods soient proposés à 179 €, même si je trouve que c'est quand même cher pour un casque. C'est cette espèce de, comment dire, cette espèce de morgue qu'a Apple à essayer de faire passer pour du courage, de l'avant-gardisme, ce qui est une pure stratégie commerciale, oui, celle qu'ils ont toujours eue, c'est-à-dire celle de l'enfermement de leur clientèle dans leur propre écosystème. Parce que finalement, on se propose. On vire le jack et on propose les AirPods à côté. Bon, très bien, alors effectivement, on peut utiliser aussi d'autres casques Bluetooth, mais on remplace finalement la prise jack par le Lightning. C'est-à-dire qu'on remplace de l'universel par du propriétaire. Et on met en avant du propriétaire, toujours. Alors, le propriétaire est toujours de très bonne qualité chez Apple. Hein. Moi, j'ai eu un iPhone 4 pendant très longtemps, et j'ai trouvé que c'était un appareil de bonne qualité. C'était pas foufou non plus, parce qu'au bout de 4 ans, il y a quand même des boutons qui a commencé à déconner, mais bon, c'est normal. Enfin, je veux dire, ce sont de bons produits, qui sont bien finis, qui sont bien optimisés, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis passé sous Android, ça a été une libération. Vraiment, ça a été une libération. Tu peux faire ce que tu veux sur Android. Tu es libre, vraiment. Tu n'es plus dans le petit jardin d'Apple, quoi. Donc, c'est, encore une fois, ça correspond sans doute à des mentalités différentes, tu vois. Mais moi, je trouve que virer la prise jack, c'est une stratégie commerciale qui sera peut-être, il y aura peut-être du succès, enfin voilà, peut-être qu'ils ont un succès fou et qu'ils vont mener l'industrie comme ça, tous les téléphones mobiles vers le tout sans fil, peut-être. Peut-être pas. Enfin, en tous les cas, il faut quand même pas perdre de vue que tout ça, c'est une stratégie commerciale et pas de l'avant-gardisme, parce qu'encore une fois, il faut pas faire passer la prise jack parce qu'elle est pas, vraiment obsolète, parce que elle fait son boulot toujours comme il faut.
Alors moi, j'avoue que je connais pas les différences de est-ce qu'elle limite la qualité, etc. Je sais pas, je suis pas certain parce qu'effectivement il y a beaucoup de casques filaires qui sont réputés comme étant très haute fidélité.
Alors non, mais il y a plein d'arguments si tu veux qui sont un argument que j'ai vu employé aussi en faveur d'Apple, c'est cette fameuse histoire du DAC qui doit être intégré au téléphone quand on a une prise jack. Alors que quand il n'y a pas de prise de jack ou que on communique directement en numérique, que ce soit par Lightning ou autre, on peut déporter le DAC du téléphone et donc avoir un DAC de meilleure qualité. C'est un argument qui est à moitié vrai parce que en général, la plupart des gens, s'ils ont un bon casque, ne verront pas la différence au niveau du son, de la qualité du son, ne verront pas la différence entre un DAC externe et le DAC du téléphone. Faut arrêter, hein. Tout le monde n'est pas audiophile. 90% des gens, peut-être même plus, ne verront pas la différence de sur avec un même casque, avec une musique qui est numérique, qui est transcodée donc en analogique à l'extérieur avec un super DAC externe ou directement par le téléphone. Donc, c'est un argument qui me paraît un petit peu spécieux.
Ça se tient, ça se tient. Bon, c'était un petit peu notre revue follow-up des émissions précédentes. On va quand même redétailler quelques éléments en lien avec la keynote Apple. Juste avant de rentrer dans la suite des news, je voulais juste vous rappeler qu'on a un tirage au sort en cours pour faire gagner. Alors cette fois-ci, ce sera un OnePlus 3 ou un OnePlus 3 pour les puristes bon voilà. Cédric vous reparlera largement de ce téléphone qu'il aime toujours autant, qui est un digne successeur du 1 et du 2. Il vous fera un petit test revue dans le prochain épisode de Tech Café. Mais restez écouter cet épisode numéro 35 jusqu'au bout, parce qu'en plein milieu, je vous donnerai vraisemblablement le nom du tipeur qui aura gagné ce OnePlus 3. On va revenir sur les petites annonces de la keynote. Il y a notamment iOS 10 qui est dispo en version publique pour tout le monde maintenant, plus en bêta depuis hier, à l'heure où on enregistre. Guillaume, est-ce qu'il y a quelques éléments qui t'ont interpellé sur iOS 10 autour de Siri que tu voulais redétailler ?
Pas vraiment. Moi, j'ai pas vraiment suivi iOS 10. J'ai l'impression que Siri a reçu des petits coups de jeune. Enfin, là, encore, il y a plus de fonctionnalités, j'ai l'impression. Et ça vient en partie du fait qu'elle s'ouvre donc aux développeurs tiers. Ce qui est intéressant, ce qui manquait, je pense, cruellement. Donc ça la met plus sur un pied d'égalité avec Alexa, l'intelligence d'Amazon. Et donc, c'est sans doute pas mal. Là aussi, apparemment, elle est capable aussi d'être... Enfin, elle est plus intelligente pour un tas de trucs, apparemment. Elle est capable de lire les conversations que vous entrez sur iMessage et d'être plus contextuelle, de vous faire des trucs, des suggestions contextuelles un peu plus intelligentes. Et apparemment, elle est aussi capable de comprendre un petit peu mieux les trucs un peu ambigus du style quand vous appelez quelqu'un par son prénom, que vous dites ma femme, que vous dites des choses comme ça. Apparemment, elle est capable de comprendre mieux. Donc, moi, je voulais vous poser la question aussi, parce que c'est vrai que j'ai lu un article assez intéressant sur l'intelligence artificielle chez Apple, il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça que je voulais avoir votre avis aussi sur Siri. Est-ce que vous l'utilisez ou n'utilisez pas? Est-ce que vous l'utilisez plus depuis ces deux dernières années?
Alors, Tom, on va te renvoyer la question. Est-ce que Siri, tu l'utilises à la base, et est-ce que iOS 10 a changé quelque chose pour toi?
Je l'utilisais à la base, j'utilise de plus en plus. C'est vrai que finalement, ça s'ouvre sur l'extérieur, parce que c'est comme tu disais, hein, Apple, c'est toujours fermé avant parfois d'être ouvert. C'est vrai qu'il y a des trucs que tu pouvais pas faire qui étaient un peu idiots, quoi. Tu pouvais pas envoyer un message avec autre chose que iMessage, tu pouvais pas, il y a plein de trucs que tu pouvais pas faire. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas mal. Moi, par exemple, j'ai pas mal de lumières Philips Hue et je les contrôle avec Siri. Donc, je lui demande d'allumer le salon, d'éteindre la cuisine, d'allumer la chambre de ma gamine ou de la passer en mode nuit. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien maintenant, Siri. Ouais. Pour envoyer des messages courts quand j'ai les mains dans la flotte, oui, c'est pratique aussi. Et sur iOS 10, ouais. un petit truc pour ceux qui ont plusieurs appareils Apple, quand vous faites « Hey Siri » maintenant, ou « Dis Siri », il n'y a plus qu'un seul appareil qui répond. Hein. Donc, c'est-à-dire que si tu as l'iPad qui n'est pas loin de l'iPhone, il n'y a que l'iPhone, en général, prioritaire, qui répond.
Qu'est-ce que c'était chiant, ça.
Oui, énormément.
C'était super chiant. Il y a des petits trucs, hein. Effectivement, bon, Siri, typiquement sur Apple TV, ça va être tout con, mais qu'on puisse chercher des vidéos sur YouTube, ça fait partie de ces intégrations qui sont assez intéressantes. Et puis j'avais, alors oui, un autre point aussi, hein, sur iOS 10 et du coup qui impacte aussi la nouvelle version de macOS, qui moi sont des éléments d'intégration qui arrivent beaucoup à me convaincre, c'est le copier-coller inter-appareil. Donc vous allez copier quelque chose du texte sur votre Mac et vous allez pouvoir le coller sur votre iPhone dans un mail par exemple ou n'importe où. On sent que c'est pas encore une technologie qui est 100% au point parce qu'il y a une forme de lenteur au moment où on essaye de coller sur un des appareils, mais le fait qu'il synchronise le copier-coller à travers les appareils, c'est quand même assez convaincant aussi. Donc des petites nouveautés intéressantes pour iOS 10 et macOS Sierra qui sont disponibles dès aujourd'hui gratuitement comme les autres mises à jour d'Apple.
Sierra sera disponible le 20.
Ah pardon, je croyais qu'il était dispo en public.
Il sera libéré le 20.
Ça vient très très vite. Est-ce que tu voulais détailler quelque chose par rapport au machine learning, Guillaume?
Ouais, enfin, disons que j'avais lu il n'y a pas très longtemps un article assez intéressant qui donnait. Enfin, tu sais que les grosses boîtes, les GAFA, donc les grosses boîtes de l'Internet et de la technologie, bon, elles sont toujours assez bavardes, hein, ce sont toujours les premières, parce que dès qu'elles font un truc un petit peu impressionnant, un petit peu spectaculaire, en intelligence artificielle, ou en machine learning, voilà, on le sait, elles font beaucoup de communication dessus, et Apple, non. En fait, Siri, c'est un petit peu le seul truc d'intelligence artificielle qui est vraiment visible, quelque part, et c'est pas vraiment présenté comme ça. C'est vraiment présenté comme une sorte d'assistant, et puis bon, voilà, on ne sait pas trop comment ça marche. En réalité, Apple utilise le machine learning partout, et tout le temps, et d'une manière qui est... Enfin, il est quasiment omniprésent. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on ne le remarque pas, et c'est vraiment la manière dont Apple veut le faire. Par exemple, Siri est passé au réseau de neurones en juillet 2014, pour nous le 15 août 2014. Et il semblerait que à l'époque, ça ait multiplié par deux, ça ait divisé par deux les erreurs, quoi, donc ça ait multiplié par deux l'efficacité. Ah ouais. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient rendu ça public. Ils ont laissé les gens se rendre compte petit à petit que leur requête était de mieux en mieux comprise, par exemple. Et finalement, le machine learning, il n'est pas intégré que dans Siri. On va intégrer dans Siri la version vocale, mais aussi dans Siri la version, assistant sur le téléphone. Par exemple, quand on va voir les recommandations d'appli, quand on swipe vers la droite, vous avez donc les applis, les contacts, enfin des trucs qui sont, que vous êtes susceptible d'appeler en... parce que voilà, c'est probable d'après Siri. Bon, mais donc il y a du machine learning là aussi, et il y en a tellement partout que finalement on s'en rend absolument pas compte. Apparemment, Apple utilise par exemple pour détecter les fraudes sur l'Apple Store, pour augmenter la batterie, la durée de la batterie entre les charges. C'est aussi du machine learning qui fait le tri dans les rapports des bêta-testeurs. C'est ça qui permet à Apple de vous sortir donc les nouvelles news. C'est utilisé dans l'Apple Watch pour savoir si vous faites de l'exercice ou si vous êtes juste en train de marcher ou de glander. C'est ce qui reconnaît les visages, mais aussi les endroits dans les photos. C'est même apparemment ce qui décide de switcher du Wi-Fi à la 4G quand vous sortez, quand les réseaux sont un petit peu tangents comme ça. Et apparemment, ils ont même fait un algorithme qui a appris qu'est-ce que c'était que de faire un film sympa. Et c'est comme ça qu'ils sont capables de compiler les vidéos et les petites photos dans un mini-film comme ça, automatiquement.
C'est comme ça que quand tu tapes voiture, ils trouvent toutes tes photos de voiture dans tes photos aussi.
Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, donc ils utilisent le deep learning beaucoup. Et malgré, alors parce que c'est vrai qu'on dit souvent, Apple est un petit peu handicapé sur le plan de l'intelligence artificielle, parce qu'on a besoin de gros volumes de données en intelligence artificielle pour entraîner les réseaux, pour faire du data mining. Et ils ont des grosses bases, mais ils n'ont pas de moteur de recherche. Et comparé à Google, ça les handicape. En plus, Apple a bâti une partie de sa réputation sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs, ce que, pour l'instant, on peut pas dire que ce soit de l'arnaque, hein, pour l'instant, c'est vrai. Mmh. Il crypte tellement bien, on en a parlé d'ailleurs.
Il chiffre, tu veux dire.
Ici, il chiffre, tout à fait, merci. Il chiffre tellement bien leur téléphone que même eux ne peuvent pas les décrypter, et donc du coup, ça doit être assez difficile de faire transiter des informations pour pouvoir faire de l'apprentissage. Et une partie de la solution qu'ils ont trouvée, c'est tout simplement de tout laisser sur le téléphone. Enfin, pas tout, mais en tout cas une grosse partie des infos, des métadonnées, et finalement une grosse partie de l'intelligence qui est utilisée par l'iPhone, elle est locale, elle est traitée en local, et il y a environ 200 mégaoctets de données, d'informations agrégées, qui sont utilisés par le cerveau de l'iPhone pour justement assister, pour faire un petit peu tout ce que j'ai dit. Et donc c'est assez rigolo parce que effectivement c'est exactement l'inverse de Google, Apple. C'est il y a une sorte de culte du secret dans la manière dont l'entreprise fabrique, conçoit ses produits. Il n'y a que le résultat qui compte.
C'est le côté magique d'Apple toujours.
Et effectivement, c'est exactement ça. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour même dans des détails, par exemple sur le stylo de l'iPad Pro. Quand vous utilisez le stylo, vous l'utilisez avec votre main et bien entendu votre paume repose très souvent.
Pour les canards, ça peut être leur palme.
Exactement, si vous êtes un canard, vous pouvez. Donc ça peut, vous avez votre paume qui peut reposer sur l'écran, ça peut fausser les
l'animal.
L'animal, il se transforme en canard.
Non, mais il me semble qu'il pouvait se transformer en truc qui nageait et il avait les mains palmées.
Ah, c'est un sacré canard, toi aussi.
Ça a vérifié, ça s'est vérifié. Manimal, donc. Et bref, du coup, voilà quoi. Du coup, ils utilisent ce jeu, des algorithmes comme ça qui sont apprenants pour pouvoir rejeter les signaux qui sont comme ça parasites, qui sont vos doigts ou votre paume quand vous utilisez le stylo. Et finalement, l'intégration verticale d'Apple, elle est super, super importante parce que ça leur permet de faire une optimisation et de tout concevoir en même temps. Et finalement, le machine learning est intégré dedans et tout ça, c'est pour, c'est juste pour... le résultat, quoi. Uniquement pour le résultat. Donc, je trouve ça très rigolo de voir à quel point Apple était diamétralement opposé en termes de communication sur ces technologies face à Google ou Facebook ou même Amazon.
Ouais, ça se sent aussi dans Apple Music, moi, je trouve. Hein, la recommandation pour vous est souvent assez pertinente. Ouais. Ces recommandations-là, moi, j'ai pas trouvé de service de musique qui me recommandait aussi finement. Enfin, j'ai le sentiment, en tout cas, après, on peut être particulièrement fanboy et être influencé aussi, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que ça marche quand même pas mal.
Tu vois, par exemple, dans iOS 10, ils ont travaillé sur le module conversationnel de Siri. Et ils vont essayer de rendre sa voix plus naturelle. C'est un détail, mais c'est très important d'avoir une intelligence artificielle qui te répond avec une voix naturelle, parce qu'elle est plus prise au sérieux, quelque part, et les gens sont plus à l'aise quand ils l'utilisent. Donc ça fait partie des chantiers, et effectivement, Siri va être grandement amélioré là-dessus bientôt. Quoi.
Et tant mieux, moi je m'en sers.
C'est pas déjà fait, mais...
Moi, je m'en sers pas mal de Siri et c'est vrai qu'on le voit évoluer depuis son lancement parce qu'au début, c'était quand même pas très utile. On va quitter un petit peu la keynote Apple. Je suis sûr que les fans de Nintendo sont déçus qu'on ne parle pas d'un autre sujet. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu plus loin dans une rubrique un peu plus jeux vidéo. On va transitionner plutôt sur l'IFA 2016, cette espèce de grand salon européen en Allemagne, si je dis pas de bêtises, qui a lieu en Allemagne, à Berlin, où il y a toujours plein de petites choses, alors je dois dire, moi de mon côté je trouve plus ou moins innovantes, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont présentées en termes d'innovation quand même technologique. Allez, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? On va commencer par Guillaume là aussi. Est-ce que tu as des choses qui t'ont particulièrement plu sur cette IFA 2016 que tu as vu passer?
Ben moi, le Yoga Book, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu, honnêtement. Hein. C'est une sorte de laptop, ça ressemble à un laptop. En fait, c'est une tablette qui s'ouvre comme ça, et au lieu d'avoir un clavier, vous avez une surface plane qui peut servir de clavier, puisqu'il y a un rétroéclairage qui permet de faire apparaître les touches, mais qui surtout est destiné à être utilisé comme une tablette graphique avec un stylet. L'appareil est plutôt joli, et j'ai trouvé ça vraiment sympa comme idée. C'est un peu original, et pour les artistes, ça doit être vraiment cool, quoi. Je sais pas si t'as vu passer.
Ouais. Alors, moi je l'ai vu passer effectivement. J'ai pas assez vite. Je suis pas convaincu par l'intégration qui peut être faite de ce genre de produit. Comme je suis tellement un fanboy Apple, je me dis c'est pas Apple qui le fait, c'est pas bien pensé. Je dois dire que c'est une intégration qui me laisse encore un tout petit peu pantois et je me vois pas l'utiliser. Moi, ce qui me marque d'ailleurs, c'est que ce soit pensé Android et Windows et que tu puisses l'utiliser avec deux systèmes d'exploitation qui, je trouve, sont assez radicalement différents aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a un côté un petit peu curieux, un petit peu bête curieux sur ce produit. Tom, Ça t'a parlé?
C'est un beau produit, mais par exemple, moi qui dessine beaucoup, je l'utiliserai pas parce qu'il a un défaut majeur. Tu as ta main qui est séparée de ton dessin. Et ça, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que c'est comme dessiner sur une tablette Wacom sur ton bureau avec ton Photoshop sur ton écran 27 pouces. C'est hyper difficile de dessiner avec précision.
Il y en a plein qui le font. Hein.
Comment ?
Il y en a plein qui le font comme ça. Moi, je connais. Enfin, les graphistes au boulot, c'est comme ça.
Ouais, mais quand tu veux vraiment avoir ton trait à la main, l'idéal, en général, les graphistes qui sont vraiment très pointilleux, ils ont des. Tu peux avoir des Cintiq, mais tu peux aussi avoir un iPad Pro qui te permet de vraiment retrouver certaines sensations. Mais non, c'est un joli objet. C'est vrai que j'aime beaucoup le côté du clavier qui apparaît comme ça.
C'est malin.
C'est génial. On va vers des interfaces qui sont formidables pour le futur. Mais pour dessiner, ce serait pas mon premier choix, mais c'est un bel objet, vraiment.
Disons qu'il y a un côté effectivement hybride, et si tu cherches vraiment un appareil qui fait plein de choses, ça doit pouvoir bien répondre. Ouais, en plus à ce prix-là, effectivement.
Enfin, 600 euros, c'est quand même pas...
600 euros pour la version Windows, 500 pour la version Android.
C'est ridicule, on va dire, par rapport à ce que ça fait, par rapport à ce que tu peux produire. On n'imaginait pas ça il y a quelques années. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment génial.
J'ai hâte de voir les tests vidéo, en tout cas. Et puis alors, ils disent que sur la partie inférieure, là, qui est tactile, et c'est comme ça que peut se représenter un clavier. On le voit bien sur les photos hein, dans l'article. Mais c'est vrai que il n'y a pas le retour de frappe, quoi. Donc ça fait comme les claviers sur iOS, sauf que là encore, c'est encore dans la lignée de ce que tu dis, Tom, c'est que tu es amené à avoir les doigts qui utilisent un clavier que tu ne regardes pas, puisque pour moi, un écran qui est déporté de son clavier, je regarde l'écran, je ne regarde pas le clavier quand je frappe sur les touches, et il n'y a pas de retour mécanique, donc ça doit être peut-être un petit peu compliqué de s'y retrouver.
Guillaume, il peut peut-être me dire, mais c'est pas Apple justement qui a déposé un brevet sur des écrans avec retour haptique à plusieurs endroits ?
C'est peut-être, enfin, moi j'ai vu passer des trucs comme
ça, mais
je suis pas sûr que ce soit les seuls de l'avoir fait, non. Ou que ce soit Apple, je sais plus exactement, mais c'est, oui, alors on peut faire des retours haptiques localisés, mais je sais pas si ça existe déjà, quoi.
Bon, ça viendra nécessairement.
Je me souviens très bien d'ailleurs, quand on était allé au MWC il y a quelques années de ça, il y avait une démo assez rigolote d'un écran où il y avait un retour haptique, où c'était pas juste des vibrations, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à moduler les vibrations pour te faire rendre le truc rugueux ou dur ou différent. Enfin, c'était assez bizarre. Ça fait un petit moment que ça traîne, ces trucs. Hein.
C'est excellent.
Un autre produit qui a pu te séduire, Guillaume, ou est-ce que tu veux qu'on enchaîne derrière ?
Non, mais je suis pas séduit, mais c'est vrai que la télé transparente, c'est toujours rigolo, quoi.
C'est clair.
C'est une télé, hein, donc c'est un écran OLED qui a la particularité d'être transparent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du noir, c'est une vitre qui est parfaitement transparente. Et donc, comme chaque pixel s'allume tout seul, quand la télé est allumée, vous avez l'image au lieu du fond. Et s'il y a du noir, comme le pixel n'est pas allumé, vous voyez à travers. Donc ça donne des trucs assez rigolos, donc soit ça fait des images qui sont normales, hein, tout simplement, soit on dirait qu'il y a des sortes de surimpressions sur une vitre, et ça fait très futuriste, vraiment. Il y a l'exemple luxe ultime d'une cave à vin, où la porte affiche des informations comme ça. C'est un peu exagéré, mais c'est quand même très très rigolo. Alors évidemment, ça coûte 25 000 euros, ce sera dispo en 2019, pour ceux qui auront des amis à mettre dedans. Bon, voilà, c'est juste pour rêver, quoi, mais c'est quand même sympa.
Tu te souviens, c'était dans... le film avec Schwarzenegger c'était le film où il est sur Mars, justement, où il a...
Total Recall.
Il change, en fait, il voit pas dehors, mais c'est les écrans qui lui produisent la vue. Quand il fera moche dehors, on aura des jolies vitres avec pas de pluie.
Mais c'est exactement ça. Je pense que j'ai vraiment accroché parce que c'est la science-fiction, quoi. Complètement, t'imagines avoir des fenêtres comme ça, c'est le pied, quoi. Et ouais, c'est pour ça, c'est vraiment le côté SF qui m'a tiré là-dessus.
C'est vrai que t'imagines un four avec ça qui te donne la température, qui te dit si c'est cuit, on peut aller très loin. Dans quelques années, à mon avis, on va être impressionné.
Ouais, c'est clair, mais je pense que ça va profondément bouleverser des usages et pas que informatique, ce type de technologie. Intéressant en tout cas. Tom, est-ce qu'il y avait des choses qui t'avaient plu, qui t'ont interpellé sur cette IFA?
C'était cette télé aussi transparente, moi, qui... maintenant je suis en recherche d'un financement pour m'en acheter une, mais c'est tout.
on va essayer de... Voilà, c'est ça. Peut-être que si vous typez assez, un jour, on aura... Éventuellement, il faut beaucoup typer, hein. Mais peut-être qu'on aura un écran transparent à tester et à vous faire gagner, à les savoir.
On va transitionner doucement sur un autre type d'environnement de présentation. Ce sont les présentations d'Intel. Et là, j'ai vraiment envie de... Alors, on va pas faire une chronique des composants, mais on va quand même survoler quelques éléments qui sont propres à Intel. Guillaume, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté de beau Intel cette fois-ci?
Bah, non, mais alors, justement, là, c'est pas du tout des composants, c'est plutôt des trucs assez rigolos, enfin, des expérimentations plutôt, puisque donc c'est à l'IDF 2016, l'Intel Developer Conference. Intel a présenté certains produits qui sont en rapport avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, parce que comme... alors, voilà, donc on rappelle, la réalité virtuelle, c'est quand vous êtes immergé dans... un environnement complètement virtuel, complètement de synthèse, complètement en image de synthèse. Et la réalité augmentée, c'est quand vous voyez le monde extérieur, mais que vous rajoutez des éléments comme ça qui sont artificiels.
Alors, de manière très schématique, Oculus Rift, c'est de la réalité virtuelle. Exactement. Et les Google Glass, c'est de la réalité augmentée.
Complètement, complètement. On pense à HoloLens aussi. HoloLens qui est vraiment à l'extrémité quand même réalité augmentée du spectre, où on a... des tas d'exemples d'objets qui se posent sur votre table ou de choses en 3D comme ça que vous pouvez manipuler avec vos doigts dans le monde réel. Et finalement, Intel se place un petit peu au milieu, oui, parce que c'est les deux places des prises, alors du coup, il y a un peu de mal, mais il se place plutôt au milieu avec une réalité mixée, mélangée, c'est assez étrange. Et donc, il a présenté son casque qui s'appelle le projet Alloy, avec deux L. Alors, le projet Alloy, c'est, bon, quand vous le voyez comme ça, c'est un casque, ça a l'air d'être un casque de réalité virtuelle de base, quoi.
Ça donne envie de décrocher, en tout cas.
Ouais, c'est un peu Alloy, ah oui.
Alloy.
J'écoute. Donc, ouais, et donc, du coup, bon, c'est, ça paraît un petit peu, voilà, un petit peu bateau. Alors, il faut quand même savoir qu'à l'intérieur, il y a tout. C'est-à-dire, c'est pas juste un casque, vous avez les capteurs, vous avez... le truc pour faire les calculs, tout ça, tout est dans le casque, vous avez aucun fil, et ça vous permet de faire deux choses. Ça vous permet d'une part de vous projeter dans un espace complètement virtuel, mais de mélanger des éléments réels aussi, parce qu'il y a sur ce casque, il y a des RealSense. Alors c'est l'occasion, ça a été l'occasion pour Intel de représenter les RealSense. Je ne sais pas qui se souvient des RealSense, qui sont là depuis 2 ou 3 ans déjà.
Ah, monsieur.
Ah, c'est bien, bravo. Donc les RealSense, hein, ces fameuses caméras 3D, c'est des petites Kinect. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est des petites Kinect. C'est des caméras stéréo qui utilisent des capteurs infrarouges et peut-être même des nouveaux d'ailleurs pour les dernières versions, qui permet de mapper en 3D la scène devant vous, d'avoir non seulement l'image mais aussi la profondeur. Et c'est très intéressant parce que ça permet tout simplement, quand vous regardez... quand vous avez votre casque, que vous mettez vos mains devant le casque, le casque voit les mains et les intègre immédiatement dans l'environnement virtuel. Et ça permet d'interagir avec ce truc-là. Et si vous montrez un objet au casque, celui-ci peut le reconnaître et l'utiliser pour interagir avec des éléments virtuels. C'est pour ça qu'ils appellent ça la réalité mélangée, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc, sur le lien, que j'ai deux liens là, il y a une vidéo promotionnelle qui est la vidéo promotionnelle la plus abusée de l'univers.
Légèrement, oui.
Puisque c'est juste n'importe quoi. Le mec est dans Matrix. Voilà, c'est Matrix. La vidéo, c'est vraiment Matrix.
Matrix avec des chaudasses. Hein.
Matrix avec des chaudasses qui dansent avec des.
Par
des
contre, il fait ça, mais take my money, hein. C'est.
Ouais, pour savoir ce que c'est, faut cliquer sur la deuxième vidéo. Et là, voilà, les graphismes PS2, là, tu vois, c'est ça.
Tu vois les vieilles avec des polygones, bah voilà.
Non, mais c'est vraiment hallucinant, quoi. Non, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rigoler. La vidéo promotionnelle, et après, t'as la vidéo des mecs sur scène. C'était absolument
hilarant. C'est un peu le problème qu'il y a dans ce genre d'arrivée de technologie. Je trouve ça toujours... Enfin, moi, ça me déroute un petit peu parfois qu'on nous fasse miroiter des trucs. C'est pour ça que ça a d'ailleurs autant déçu quand on parlait de l'HoloLens, où on s'imaginait vraiment, ça y est, c'était venu, on allait avoir les hologrammes autour de nous. Puis en fait... bah, il y a un champ de vision qui est super limité et voilà. Enfin, on est toujours dans une espèce de surenchère de la promesse sur ce genre de truc, alors que pour le coup, les technos sont pas complètement à la hauteur de ce qu'on présente, quoi. Donc il y a un côté déceptif,
ouais,
un peu.
Tout à fait, tout à fait. Alors il y a quand même des trucs à retenir. Bon, d'une part, Project Alloy, c'est un casque tout en un, et c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu la tendance, puisque par exemple Qualcomm a dévoilé le Snapdragon VR 820, qui est aussi un casque de réalité virtuelle tout en un, qui intègre donc la puissance graphique et de calcul pour afficher les trucs. Évidemment, c'est basé sur les derniers chipsets Qualcomm, hein, bah, le Snapdragon 820. Et c'est un petit peu la même chose que ce que fait machin, là, que ce que fait Intel, parce qu'il y a aussi effectivement des capteurs pour intégrer les mains, tout ça. Donc il y a une véritable tendance, si tu veux, au casque tout en un qui intègre tout, où on n'a pas besoin d'avoir des câbles qui partent du PC, enfin voilà, tout ça pour un petit peu streamliner le truc. Bon, malheureusement, ça veut aussi dire que la capacité de graphique, eh ben, elle va s'en ressentir. Hein. Mais bon, c'est quand même pas inintéressant. Et puis, ça a permis aussi à Intel d'essayer de remettre sur les rails le RealSense, qui est un petit peu oublié, parce que c'est pas inintéressant. C'est quand même des caméras qui sont assez petites pour être intégrées dans des laptops, qui sont déjà utilisées d'ailleurs par Microsoft pour avec Windows Hello, qui permet de s'identifier directement sans passer par des mots de passe. Et ils ont même un nouveau modèle de RealSense, hein, la série 400, où il y a encore plus de points 3D, c'est plus précis, c'est plus mieux, quoi. Et plus intéressant, je trouve, ils ont un petit module qui s'appelle Euclid, qui est tout simplement une caméra RealSense qui est couplée avec une petite clé USB Compute Stick, tu sais, cette petite clé USB sur laquelle il y a un PC sous Windows, qui est directement, qu'on peut brancher sur la télé et qui marche tout de suite. Et ben, ils ont intégré en fait un ordinateur et la caméra, et ce truc peut être assez intéressant pour des robots, tout simplement parce que ça peut servir de module de vision et de cerveau pour un petit robot, un petit drone. C'est assez facile c'est pas très cher, c'est tout petit, c'est très léger, et ça permet effectivement de motoriser des robots assez simplement. Bon, tout ça en plus sera ouvert. Project Alloy, bon, je me moque un petit peu, mais c'est pas complètement idiot, hein, parce que ça, déjà, d'une part, ce sera un open source, c'est-à-dire que tout le monde pourra faire. Là, ils ont montré le design de référence, mais tout le monde pourra utiliser les SDK pour éventuellement faire des trucs avec leur propre matériel. Et puis, ce sera compatible avec Windows Holographic Edition. Parce que je rappelle que Microsoft veut, les années qui viennent, et plutôt tôt que tard, doter tous les PC Windows 10 d'une interface holographique. Pour ceux évidemment qui auront les terminaux pour l'afficher. Qui sera donc une interface tridimensionnelle dans laquelle vous pourrez interagir avec les objets directement avec vos mimines. Donc c'était assez rigolo.
Est-ce qu'un cas d'usage d'ailleurs au passage ça peut être en gros c'est une super caméra qui voit beaucoup de choses en 3D, est-ce qu'un cas d'usage ça peut être notamment tout ce qui est appliqué à la conduite autonome, typiquement les équipements aujourd'hui des Tesla j'imagine et des véhicules autonomes, est-ce que ça s'appuie sur ce type de technologie, même si c'est pas des RealSense, pour justement détecter les objets alentours, les autres voitures, etc.
Alors oui et non, c'est-à-dire que les lidars des voitures sont des versions qui sont énormément plus précises, rapides, fiables, et qui sont aussi à 360 degrés, donc on n'est pas du tout dans la même gamme. Mais c'est un petit peu la même idée dans le sens où effectivement ce sont des caméras qui voient à la fois les couleurs mais aussi les distances, et dans le cas des voitures, qui doivent les voir assez rapidement, quoi, qui doivent mapper l'environnement en trois dimensions autour de la voiture de manière très rapide et très fiable. Donc c'est un petit peu la même idée, sauf qu'on est évidemment dans des trucs beaucoup, beaucoup plus sophistiqués pour les voitures autonomes.
Intel, quand on pense à Intel, c'est quand même, moi, c'est ce qui me vient en premier, hein, c'est les composants, c'est les microprocesseurs. Tu nous parles toujours de taille de gravure, il faut toujours aller plus loin, plus petit. Là, il semblerait qu'on a une génération qui arrive en 10 nanomètres, qui arriverait même à grands pas. Alors, est-ce que tu peux rappeler, parce qu'on n'est pas dans la chronique des composants, on va en retoucher un mot après de la chronique des composants, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les intérêts de la finesse de gravure d'un microprocesseur ?
Alors, la finesse de gravure, on va en parler effectivement dans la prochaine CDC, parce que c'est quelque chose dont on parle très très souvent, et de manière très très approximative, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, tout simplement. Ce que ça veut dire de manière approximative, justement, c'est la miniaturisation des composants dans les processeurs, et donc au plus ils sont petits, au mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'un un microprocesseur qui a des tout petits transistors, des tout petits composants, c'est un microprocesseur qui potentiellement peut en contenir plus, hein, puisqu'ils sont petits, et qui peut aussi, qui consomme moins d'énergie, puisque plus un composant est petit, au moins il consomme d'énergie. Donc ça permet de le faire tourner plus vite, sans qu'il chauffe trop. Donc il y a en gros il y a deux avantages principaux, hein. Donc réduire la taille de manière physique, ça permet d'augmenter la rentabilité de production des puces, Et ça permet aussi d'intégrer de nouvelles fonctions dans les processeurs, dans les puces, dans les systèmes sur puces. On a plus de place, on peut mettre plus de composants, donc on peut intégrer d'autres fonctions. Et enfin, on consomme moins, donc ça veut dire que soit on consomme moins, donc ce qui est très important si vous êtes en mobilité, ou bien on consomme moins, donc on peut cadencer à une fréquence plus élevée, et donc aller plus vite dans le cas où, au niveau thermique, ça rentre. Vous n'avez pas de contrainte thermique trop importante. Voilà.
Moi, je t'écoutais religieusement.
Non, mais j'ai répondu à ta question, donc c'est pour ça.
Oui, bien sûr. Je pensais que tu allais enchaîner sur les 10 nanomètres pour le deuxième semestre.
Non, mais c'est parce que j'ai répondu à ta question d'abord, quoi. C'est tout.
En fait, tout ça, c'est un test. On va le dire. On enregistre ce soir pour la première fois Tech Café avec un service qui s'appelle Zencaster, donc qui enregistre grosso modo via le navigateur. En fait, les voix en local et après ça permet de mixer tout ça très bien. Il y a une fonction dans Zencaster à laquelle je crois beaucoup. On verra si ça peut s'appliquer, qui est de la suppression des blancs. Donc en fait, normalement.
Ça a pas marché l'autre jour.
Il faut pas dire ça, Tom, sinon je vais être déprimé. Non, ce sera l'occasion parfaite pour tester. C'était ça, c'était volontaire. Non, en fait, je voulais effectivement que tu nous en dises plus sur ce fameux 10 nanomètres qui arriverait du coup vachement plus vite que ce qu'on avait prévu, non ?
Pas vraiment, non, puisque la transition 14 nanomètres a été un petit peu compliquée. Donc là, pour l'instant, on est en 14 nanomètres. Les Broadway ont été en retard, donc les Skylake sont gravés en 14 nanomètres actuellement, et pour la deuxième moitié de 2017... les Cannon Lake sont prévus en 10 nanomètres. Oui, effectivement. Donc
ça vient vite, c'est dans un an.
Oui, c'est vrai que ça vient relativement vite. Mais je suis pas complètement. La date de lancement est pas précisée. Donc bon, c'est plus ou moins un appel du pied, on va dire. C'est un espoir, mais c'est pas encore complètement fait, quoi.
Ok. Et puis un dernier mot sur la production surprise d'Intel, Guillaume.
Complètement. Écoute, j'ai entendu dire que Intel allait produire des puces ARM en 10 nanomètres.
Qui te l'a dit ?
Ah mais non, mais je vais pas dire mes sources, sécurité, tu rigoles toi.
Vous l'aurez entendu dans Tech Café, oui.
Non, en fait, effectivement, il est probable qu'Intel utilise ses prochaines unités de production 10 nanomètres, celles qui seront peut-être fin 2017 fonctionnelles, pour produire aussi des puces ARM comme donc TSMC, Samsung, GloFo, etc. Enfin, tout simplement pour se devenir prestataire de clients qui pourraient être Apple, par exemple. C'est peu probable, mais enfin, on ne sait jamais. Pour produire donc des puces qui vont dans les téléphones mobiles et les tablettes. Donc apparemment, Intel aura jeté l'éponge, d'après cette news, Intel aura vraiment jeté l'éponge, on le savait déjà, sur la production de ses propres puces mobiles. Du coup, pour être quand même présent dans les téléphones mobiles, ils produisent des puces concurrentes, on va dire. Et ils seront grassement payés pour ça.
Sûrement.
Eh ben, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. On leur espère beaucoup de succès sur le sujet. On va transitionner sur une nouvelle rubrique dans cet épisode de Tech Café. Ça va être une rubrique qui va intéresser un petit peu plus les gamers. Alors justement, Tom, c'est parfait, ça te plaît. On voulait surtout rebondir dans un premier temps sur les annonces de Sony qui a présenté deux nouvelles consoles révolutionnaires. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire plus ?
La PS4 Slim et la PS4 LOL. La PS4 Pro. c'est pro gamer, tu prends ta manette et t'as des gants, des lunettes, tu t'entraînes, tu te chauffes avant de jouer, c'est n'importe quoi. C'est une console 4K, soi-disant, qui fait pas vraiment du 4K, elle fait quand même de l'upscaling, donc elle prend les images, elle a une tendance à les
intelligemment grandir. Voilà.
Et puis c'est une console 4K qui a quand même pas de lecteur Blu-ray 4K. Donc, c'est quand même étrange. Je trouve que c'est une console qui sort sur un marché qui est pas mature du tout. Et je pense pas que ça va faire évoluer la 4K beaucoup. Ça me fait surtout penser que le support physique est mort et qu'on va avoir de la 4K en streaming, mais que la 4K ne va jamais décoller en Blu-ray. C'est un peu un clou dans le cercueil des Blu-ray 4K pour moi, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais...
La PS4, on en avait déjà parlé, hein. C'est toi, Guillaume, qui avait le premier évoqué dans Tech Café l'arrivée probable d'une version pro de la PS4, ce qui du coup confirme un petit peu les rumeurs qui traînaient à ce sujet-là. Effectivement, on peut être assez critique. Moi, il y a quand même un point sur ce que tu dis, Tom, c'est que typiquement, les Blu-ray 4K, j'y crois pas du tout. Je crois de moins en moins au support physique et je crois de vraiment pas trop à la valeur ajoutée de la 4K. Enfin, il y a forcément plus de qualité, plus de détails, plus de résolution, c'est une certitude. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà un équipement de type télé pour vraiment profiter, que ce soit en taille, en résolution ? Je suis pas certain. Si ça existe, ça doit coûter très cher. Et je suis même pas certain, comme on le parlait tout à l'heure, pour la qualité audio, pour l'absence de la prise jack pour l'iPhone 7, je ne suis pas certain que le commun des mortels soit capable de vraiment sentir la différence. Maintenant, il y a quand même un point par rapport à tout ça. Il y a d'une part une PS4 Slim qui est du coup un tout petit peu moins chère puisqu'elle tombe à 300€, même si la PS4 traditionnelle peut vite se retrouver dans des gammes de prix intéressantes avec les packs qui existent aujourd'hui. Par contre, est-ce que du coup ça te confirme une inquiétude que tu pouvais avoir, Guillaume, à savoir qu'on va avoir un niveau console à plusieurs vitesse, là où avant justement le fait d'avoir une console c'était s'affranchir de contraintes techniques pour être sûr de bien faire tourner les jeux?
Bah oui, c'est évident, on a deux niveaux de console, on a le niveau bourgeois et le niveau niveau de la plèbe, c'est clair et c'est net. Puisqu'on a une console qui est faite pour les bourgeois qui ont une télé 4K, HDR, tout ça, et les autres, quoi, ceux qui ont le truc classique standard. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, Sony ne le présente pas comme ça. Sony le présente comme vous avez l'expérience PS4, et si vous avez une PS4 Pro, vous aurez une expérience plus. Alors, là, comme je suis très d'accord avec toi, Guillaume, c'est que j'ai vraiment l'impression que la différence entre du 720p, tu vois, de HD Ready et du 1080p, tu la vois. Ouais. La différence entre une PS3 et une PS4, tu la vois, il n'y a pas de problème. La différence entre une PS4 et une PS4 Pro, si tu as la télé qui va bien, déjà, bon, tu la vois, mais pas tant que ça, parce que la plupart des télés 4K, elles font de l'upscale toutes seules, comme des grandes. Et du coup, si elles ne le font pas trop mal, c'est pas si moche que ça. Et en plus, si tu as une télé 1080p, tu la vois juste... pas quoi, enfin je veux dire, moi j'ai vu des vidéos, c'est magnifique, hein, j'ai vu une vidéo Uncharted 4, PS4 Pro et PS4, sur mon PC, c'est exactement la même, il n'y a aucune différence. Donc ça va être très dur à vendre, si tu veux, ce genre de truc quand même. C'est bien sûr, pour vendre une console où tu vois pas de différence dans 80% des cas.
Et moi, je me dis que ça va être terrible parce que là, l'écart en tout cas en puissance de calcul, il est grand, mais il n'est pas énorme. Mais avec la Scorpio qui va sortir, la Xbox One Scorpio qui va sortir l'année prochaine, on passe de, je crois que c'est 2 teraflops pour la Xbox One à plus de 6 teraflops pour la Scorpio. C'est juste, là par contre, c'est deux bécanes différentes, quoi. C'est pas une évolution. Donc effectivement, on va se rapprocher des PC, quoi, dans pas longtemps.
Mais finalement, parce que j'essaie d'interpréter à ma manière vos réactions, ceux qui me suivent un petit peu depuis quelques temps savent que je suis plus vraiment ou pas vraiment un gamer. J'ai pas de console de salon, j'en ai plus. J'envisage d'ailleurs, justement, la Slim me ferait peut-être de l'œil dans quelques temps, parce que c'est typiquement, je pense, le genre de console qui pourrait correspondre à quelqu'un comme moi, qui a envie de profiter des expériences dernière génération des jeux vidéo, sans pour autant rechercher la performance à tout prix et qui va pas en faire une consommation très très importante. Je pense que la PS4 Slim, elle va intéresser une bonne partie du public, je pense. Mais finalement, moi, ce que j'interprète, c'est que je vous sens tous les deux et je sens les critiques vis-à-vis de cette annonce très en colère. Il y a quelque part une colère que j'interpréterais presque parfois comme une forme de frustration de ne pas pouvoir accéder au haut de gamme. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, au-delà d'être du haut de gamme de par son prix, c'est de la performance en plus théorique. Et finalement, est-ce qu'on n'en a pas rien à branler qu'il y ait une
une console très plus performante qui se lance. En fait, quel problème ça pose concrètement selon vous? Est-ce que ça pose un problème?
Ben alors justement, comme je te disais, Sony dit il y a l'expérience PS4 et puis l'expérience PS4 plus quoi. Voilà. Le truc c'est que il se pourrait aussi que on en vienne assez rapidement à des développeurs qui développent pour PS4 Pro et qui font des versions
jamais ils vont forcément développer là où il y a le parc le plus large de machines et ensuite adapter. Enfin j'imagine, j'en sais rien, je suis pas moi-même développeur, j'ai mon expérience sur le sujet, mais évidemment je suis incapable d'interpréter le développement. Mais aujourd'hui ce qu'ils vont faire les développeurs, et peut-être que ça va changer dans quelques mois ou quelques années, mais dans l'environnement Sony ils vont développer avant tout pour la vieille PS4, ils vont s'assurer derrière que ça s'optimise pour la PS4 Slim, bien qu'il n'y aura pas trop de boulot à faire sur ce niveau-là, et par contre ils vont éventuellement rajouter des effets visuels pour la PS4 Pro. J'en sais rien, ça va être des explosions par-ci par-là,
Ça va être comme sur PC. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va avoir une PS4 qui va se comporter comme une PC avec des niveaux de détail. Sur une PC, t'as un niveau de détail low, medium, high, ultra. Bon, ben là, il va y avoir aussi des niveaux de détail, c'est tout.
Il y aura deux niveaux de détail. Là, tu compares des niveaux extrêmement variés sur PC parce qu'il faut prendre en compte plein de générations de cartes graphiques.
Regarde, par exemple,
alors sur la PS4, il y en a deux, quoi.
Oui, mais regarde Tomb Raider. Le prochain Tomb Raider, il aura trois niveaux. Il aura un niveau 4K, où ce sera rendu en 4K natif. Un niveau de détail 60 FPS, où l'image sera en 60 FPS et puis la résolution c'est 1080p. Et un truc 30 FPS 1080p avec plus de détails graphiques. Donc, outre le fait que il faut choisir entre, des bras de 4 mètres ou une jambe en mousse. et tu te dis mais c'est plus compliqué.
Mais est-ce que finalement tu donnes pas plus de choix? Après je me mets à la place des développeurs, mais si bon, on peut imaginer qu'ils fassent bien leur boulot,
c'est juste de la frustration parce que t'as pas tout quoi. Tu vois ce que je veux dire, t'as pas de 4K 60 FPS.
C'était justement l'avantage des consoles, c'est-à-dire que tu te prenais pas la tête à savoir quelle configuration tu avais, t'as la génération actuelle point barre et puis c'est tout, tu roules comme ça pendant 8 ans, 10 ans comme la 360. Mais aujourd'hui, ça crée cette, comme dit Guillaume, cette disparité. Ça veut dire aussi qu'il y a les développeurs qui ont un boulot en plus à faire d'optimisation pour cette machine-là. Ça fait une machine de plus. Je vois pas ça d'un œil très très bon.
Ou pas, tu vois. Ils peuvent aussi vachement bien optimiser pour la PS4
et la PS4 Slim. Mais ça leur fait du boulot en plus. On a déjà des retards.
Bah, ça leur fait du boulot en plus s'ils veulent exploiter les ressources potentielles de la PS4 Pro, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, en plus, je trouve qu'à la limite, s'il y a trois niveaux de choix... Finalement, où est le problème, quoi, tu vois? Est-ce que ça vous crée vraiment une frustration de vous dire que ça vous embête de devoir vous limiter à jouer en 60 FPS et
non,
en 1080p?
Enfin, Guillaume sera peut-être d'accord avec moi, on verra après, mais je pense qu'il y avait peut-être des manières de faire un upgrade de la PS4 des pauvres avec un module quelque part, puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le PlayStation VR. Il va y avoir un module pour booster, donc je pense que c'est un truc qu'ils pouvaient aussi faire sur la PS4 d'une façon ou d'une autre. Faut pas essayer de me faire croire qu'ils viennent de découvrir que on pouvait avoir des ports de connexion et d'extension alors que ça existe sur PC depuis des années. Tu mets une carte graphique, t'en mets deux. Ils viennent pas d'avoir l'idée géniale de lancer une deuxième console il y a deux ans. Donc
Guillaume, est-ce qu'on peut booster une PS4 classique pour en faire une PS4 Pro en vendant un module?
Si c'était bien fait, peut-être.
Non, pas en tout cas, pas dans l'état actuel.
Si ça avait été pensé en se disant voilà, dans deux ans, trois ans, quatre ans, on sort un module d'extension qui permet de booster le truc et de leur mettre un coup de gaz comme sur les PC. Après tu l'achètes ou tu l'achètes pas, mais là ça veut dire que ça te lock complètement, t'as pas de possibilité d'évolution sauf de revendre ta PlayStation, de te racheter une télé 4K qui tourne aux alentours de 1 000 euros maintenant, de enfin bref.
Mais ça, encore une fois, c'est si jamais tu souhaites, et peut-être qu'il y en a, et tant mieux pour eux, qui souhaitent profiter de l'expérience 4K. Mais je suis pas certain vraiment que ça représente une grosse part. Je suis pas certain que ce sera l'objectif premier des développeurs. Je suis pas certain d'ailleurs qu'ils feront absolument cette optimisation-là pour la PS4 Pro, parce que je suis pas certain justement qu'ils se rajoutent tout ce surplus de travail pour un parc de consoles qui, à mon avis, sera pas démesuré. Et encore une fois, si finalement ça change rien pour le consommateur classique,
je l'espère.
Je me mets à la place de Sony. Et puis après, je vous laisserai boucler sur le sujet, mais je me mets à la place de Sony. J'ai sorti une console. qui a eu un succès de malade, et j'avais peut-être prévu tout ça avant, j'en sais rien. Aujourd'hui, je dis à mes consommateurs, ce que vous avez acheté, c'est pas à foutre à la poubelle, bien au contraire, on vous montre même que si vous voulez continuer à l'utiliser, les jeux continueront à tourner et vous profiterez de la même qualité graphique que ce que vous avez eu jusque-là. Mais pour ceux qui veulent absolument faire de la 4K, et on sait qu'il y a un marché de gens qui sont intéressés par ça, même si il y a peut-être rien d'extraordinaire dans les faits, de différent, on leur propose d'y arriver plus facilement qu'en attendant une génération de PlayStation qui arriverait peut-être dans 2 ans. Finalement, est-ce que c'est pas juste du bon sens ? Enfin, de manière générale, je trouve qu'on crie beaucoup on critique beaucoup Sony, et il y a des choses qui sont effectivement assez alambiquées. Et encore une fois, je vois ça sous mon petit côté. Je suis pas autant versé dans le gaming que vous, mais je trouve ça dur de leur taper sur le coin de la tronche parce qu'ils proposent une expérience en plus à ceux qui souhaitent le faire.
J'ai peur du syndrome 3DS, moi, tu sais. Le syndrome 3DS où ce jeu ne marche que sur 3DS. Alors au départ, ça te fait pas l'être, et puis finalement, bah si, il y a ce jeu-là, il ne sera que sur 3DS, New 3DS ou je ne sais quoi. Ça fait de la fragmentation. Mais c'est vrai qu'on n'achète pas des consoles pour avoir de la fragmentation. Oui. C'était un des avantages des consoles. Si aujourd'hui, je veux dire, les jeux c'est les mêmes et qu'il y a de la fragmentation console, bah j'irai m'acheter un PC. Hein.
Je sais pas. Moi, je pense que c'est ce qu'on se dit pour les menacer, mais je suis pas certain. Enfin, je vais arrêter de renchérir sur le sujet, mais j'ai vraiment l'impression que ça change finalement pas grand chose et que Sony se paye une communication finalement pas très très soignée sur le sujet. Déjà, le fait de lancer une Slim en même temps qu'une Pro est assez bizarre, je trouve. Enfin bon, Guillaume.
Non, mais bon, de toute façon, bon, alors oui, ce que tu disais, c'était rigolo parce qu'en fait, ils ont dit que la stratégie, c'était justement. Non, pas vraiment. Non, pas du tout, mais si tu veux, le truc, c'est qu'ils ont dit que c'était justement pour empêcher les gens de migrer vers les PC. Alors, c'est assez paradoxal, hein, c'est-à-dire que comme on est en milieu de génération et que les consoles commencent à s'essouffler un petit peu, il y a des gens qui vont partir sur PC pour avoir une expérience de jeu optimale parce que c'est puissant, bon, et donc pour empêcher ça, ils lancent une PS4 Pro qui sera donc à peu près en parité des PC de gamers, quoi, et ça permettra de maintenir les gens sur PS4. Et alors nous, on le voit on voit un petit peu ça à l'envers, c'est-à-dire on se dit, ben oui, mais s'il y a deux modèles de PS4 et qu'il y a des réglages comme sur les PC, autant jouer sur PC, c'est moins cher, limite. Bon. Donc c'est vrai que c'est un petit peu deux manières de voir. Bon, écoute, on verra. De toute façon, pour être tout à fait honnête, les bénéfices de la PS4 Pro, ils seront pas évidents que ça, parce que globalement, la console, elle a à peu près 2,5 fois la patate d'une PS4. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas assez. C'est-à-dire que pour faire de la 4K native, 4K, c'est 4 fois 1080p. Donc, il faudrait une console qui soit 4 fois plus puissante que la PS4 pour faire de la 4K dans les mêmes conditions que ce qu'elle fait. Voilà. Donc, ça veut dire que la plupart des jeux seront upscalés à partir soit du 1440p, soit du 1080p. Enfin bon, ils vont se démerder si tu veux. Hein. Ils vont peut-être faire du scaling dynamique comme ils font sur Xbox One, sans aucun doute d'ailleurs. Voilà, donc ça améliorera comment dire, ça va améliorer un petit peu la beauté des jeux, tout ça, la finesse des jeux. Bon, est-ce que ça va sauter aux yeux ? C'est pas très clair, et puis surtout, ça va être très difficile. Ça sautera certainement pas aux yeux si vous n'avez pas une télé 4K de belle taille, quoi. Donc bon, effectivement, moi je pense surtout que ça va être assez difficile à vendre en masse, ce genre de truc.
Bah tu m'étonnes, je pense que cette PS4 Pro, ça va être un échec commercial.
Ça me rappelle la PSP, est-ce que vous vous souvenez de la PSP qui était sortie il y a quelques années, celle qui s'ouvrait en deux comme un téléphone, qui était uniquement, ouais. Il n'y avait pas de port jeu, c'était tout en digital et ça avait été un flop retentissant.
Oui, c'était la PSP Go.
Bah voilà, merci. Bah voilà, j'ai l'impression que c'est un truc qui sort alors qu'il n'y a pas le marché en fait, simplement. Donc c'est étrange.
C'est possible. Moi, ce qui me fait un peu de peine finalement, c'est que je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose. C'est-à-dire qu'ils ont redesigné une PS4, ils ont refait une nouvelle console, ils ont un peu foiré. Enfin, je sais pas. Ils sont pas forcément foirés, mais disons qu'il y a un problème de communication. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Ils auraient pu tout simplement ne rien faire. Garder leur PS4, continuer à les vendre par palette, et dans 2-3 ans, ils sortaient une PS5, entièrement rétro-compatible avec les PS4, ouais. Avec vraie grosse patate en plus, et puis voilà, quoi. Enfin, est-ce que vraiment
ils le font
ça
aussi. Et après tout, pour décidément, je pensais pas qu'on en parle autant, mais pour aller jusqu'au bout de cette démarche
de réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, un marché, alors attention, un marché pro? On parle beaucoup de e-sport en ce moment. Il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. Il y a des compétitions d'Overwatch, je trouve, qui sont assez médiatisées.
Mais pas sur PS4.
Et alors, justement, est-ce que finalement le but, c'est pas de se positionner, et je dis pas que la solution technique est la réponse, mais en tout cas, d'un point de vue discours et d'un point de vue marketing, est-ce que c'est pas d'essayer de se positionner dans ces marchés-là? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un marché? J'en sais rien, je me rends pas trop compte.
Je crois pas, sur console, moi.
Non. Non, il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas. Hein. C'est,
Si t'es
vraiment un joueur sérieux, enfin, je veux dire, voilà quoi.
Entre fraguer
sur un PC et fraguer sur une PS4, moi, je m'en sors très bien avec le paddle, mais ce sera jamais avec, comme avec une souris et un clavier. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de comparaison au final.
Par contre, il
reste le PSVR hein, pour sauver un peu la PS Pro. Bon, pour l'instant, ils n'ont rien montré. Tu vois, c'est dommage aussi. Ils n'ont pas montré de vraie différence entre PSVR sur PS4 ou PS4 Pro. Bon, voilà, c'est encore un truc qui pourrait effectivement justifier, peut-être.
Et j'anticipe un petit peu les commentaires qu'on pourrait avoir sur techcafé.fr. Justement, pour éviter que je te fasse un... Non, il serait possible que vous ayez envie de déposer un commentaire en disant Tom, la simplicité de choix technique pour jouer aux jeux vidéo n'est pas le seul argument qui fait que les gens choisissent une console plutôt qu'un PC. Je m'explique, je pense que le fait d'acheter une console plutôt qu'un PC, c'est aussi parce que au-delà du fait que t'as pas de réglage à penser pour que ton jeu soit optimisé, bah t'as aussi beaucoup moins d'équipements qui traînent chez toi, t'as pas de clavier, t'as moins de mise à jour, et il y a quelque chose qui est rattaché à ton écran de salon. Voilà, t'as raison, c'est familial,
console,
même si la
console,
PS4 n'est peut-être pas la console.
Le point central de la famille, souvent, c'est la télé. Les gens se réunissent, ils jouent ensemble. Quand t'es devant ton PC, t'es tout seul, souvent,
exactement,
la plupart du temps. Donc, c'est deux mondes différents. Mais on verra, hein, peut-être que je me trompe et qu'ils vont vendre 60 millions de PS4 Pro, et je leur souhaite.
Non, je crois pas. Non, je pense qu'on est tous d'accord.
Mais la Slim, c'est une petite merveille. Voilà, moi, ma PS4, j'en suis super heureux. Je la changerai pour rien au monde. Je m'éclate toujours autant dessus. C'est juste que je comprends pas, comme dit Guillaume, si c'est pour faire un truc, autant y aller avec ses couilles et faire un gros truc qui est 4-6 fois plus puissant et qui vomit des graphismes de malade. Et là, t'arraches tout, effectivement. Là, ouais. C'est un middle term, genre bon, alors notre console, elle est pas assez puissante pour faire tourner de la VR qui est en train de prendre de la vapeur tout doucement, donc on a peur de se faire dépasser par les autres. Il y a Microsoft qui est en embuscade, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort un truc en demi-ton? Bah, j'ai l'impression que c'est ça, mais... Bon, voilà. Puis, il y a le nom aussi, Pro. Ça veut dire quoi, Pro? Je sais pas.
C'est peut-être le truc le plus ridicule, finalement, de cette annonce.
PS4 4K, tu vois, tu l'appelles...
En caca. Bon,
bref, désolé d'avoir voilà.
On va boucler un petit peu cette rubrique gaming parce qu'on vous avait promis qu'on en parlerait. C'est la présence d'une légende du jeu vidéo sur la scène de la keynote Apple. Et moi, je vous avoue,
Carmack.
On a vu Miyamoto arriver et présenter Mario Run en exclusivité sur l'App Store des appareils iOS dans quelques semaines, quelques mois. Moi, je vous avoue que ça m'a fait bizarre de voir Miyamoto sur scène et ça m'a fait bizarre de voir un Mario en exclusivité sur iOS. Guillaume, est-ce que tu vas pas quand même vouloir acheter un iPhone pour profiter de Mario Run?
Ils veulent l'avoir, ils veulent l'avoir deux mois plus tard sur Android.
Guillaume.
Très bonne blague. Non, bon, écoute, ils vont faire un runner. C'est magnifique, je veux dire. Nintendo va faire un runner, après, enfin, je sais pas, quelque chose comme, je sais pas, 3 ans après Rayman, après Sonic, après à peu près tout le monde entier, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, la vraie nouvelle, c'est qu'effectivement, Nintendo, pardon, faut pas assimiler les deux. Donc Nintendo, effectivement, se met à faire des jeux sur... On en parlera après. Donc voilà, Nintendo se met à faire des jeux sur mobile. Bon, ils ont sorti Miitomo, c'était une connerie, mais c'était rigolo. Là, ils vont sortir un vrai jeu. Si tu veux, on va pas en faire un truc plus important que ça n'est au niveau technologique ou au niveau ludique, parce que ce sera un très bon runner, très probablement. Mais enfin voilà, c'est un runner. Bon, par contre, c'est vrai que d'une part, ça veut dire que Nintendo s'ouvre, et à mon avis, c'est très bon pour leur action, hein, pour leur
change son fusil d'épaule d'ailleurs.
Il y a complètement. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'apparemment, ce sera une application payante. Oui. Et il n'y aura pas de microtransactions, il n'y aura pas de free-to-play à la con, et ça, c'est pas mal. Parce que,
bon, ce qui se présente, c'est qu'effectivement, ce sera, excuse-moi, ce qui se présente d'après les rumeurs, ce serait que le jeu serait gratuit, que les, grosso modo, les 2-3 premiers niveaux seraient gratuits, et qu'après, il faudrait faire un achat in-app, mais grosso modo, c'est comme si tu avais une démo, et si tu voulais acheter le jeu, tu le ferais dans le jeu plutôt que via le sort. Enfin bon, bref, grosso modo, c'est
le schéma démo plus jeu complet, quoi. Donc, moi, c'est un schéma que j'aime bien, parce que moi, j'en peux plus, les free-to-play qui cassent les mécaniques de jeu, enfin je veux dire, le free-to-play, la gratuité, c'est devenu le cancer du jeu vidéo, c'est terrible à dire, hein. Mais voilà, les jeux sur mobile, t'es à 90% des jeux sur mobile et qu'il y a sur les App Store, c'est pourri, parce que, bah voilà, c'est pourri de microtransactions, c'est pourri de mécaniques de free-to-play à la mort moelleux. Si Nintendo, avec le poids de Nintendo, arrive à remettre à la mode le vrai jeu que t'achètes une bonne fois, auquel tu joues et qui a des mécaniques normales, tu vois, qui sont cohérentes et qui sont pas juste pourries pour te faire raquer toutes les 10 minutes, ben super. Voilà, au moins ils auront fait ça et ce sera déjà ça. Donc moi, c'est la bonne nouvelle que je vois là-dedans. C'est très personnel maintenant.
Je suis d'accord.
Tom, excité par l'arrivée de Nintendo sur iOS ?
Je vais être honnête et je vais encore me faire lyncher, mais ça fait quelques années que Nintendo ne m'excite plus. Hein. Je suis toujours aussi fidèle. J'adore Mario, j'adore Zelda, mais effectivement Nintendo, ils arrivent toujours après la bataille sur plein de choses. Quand
mais
tu vois encore
là,
leur.
Il va y avoir la NX, hein.
Ouais, mais bon, j'ai été échaudé avec la Wii U.
J'en ai une, attention.
Moi aussi, j'en ai une. J'ai aimé 5 jeux, j'y joue tout le temps, mais mais voilà, 5 jeux, c'est pas beaucoup. Mais Nintendo, ils ont pas passé l'an 2000, quoi. Quand tu vois encore le système pour passer d'une console à l'autre, pour les achats de jeux en ligne, ils sont complètement à la ramasse sur plein de choses. Donc, comme dit Guillaume, effectivement, ils arrivent 3 ans après sur un runner. Bah, c'est Nintendo, c'est Mario, c'est joli, ce sera sûrement effectivement super maniable, super bien fait, mais bon, ça m'en bouge une sans toucher l'autre, et c'est vrai que, ouais, ce sera payant, ce sera sûrement cher, parce que c'est du Nintendo, donc ça va être un jeu qui va tourner aux alentours de 10€, sans doute. Je l'imagine pas à moins que ça, sinon ils vont pas se faire de pognon.
Les jeux... Moi, je le visualise à 5 balles, moi. 4€.
Allez, on prend les paris aujourd'hui. Moi, je dis 9,99€.
De la longueur, quoi.
Un truc comme
ça. Je sais pas si ce sera long ou pas, quoi. Tu vois, ça dépend si ça dure 4h, 8h, 5h, je sais pas.
Ouais, mais bon. Bon, bref, non, je suis content, hein. Je suis content. J'aime beaucoup Nintendo. J'ai une admiration folle pour Miyamoto. C'est une légende. Il a bercé mon enfance. Il continue à faire des jeux magiques, mais. Mais il faut peut-être que Nintendo se rende compte que les choses ont bougé et qu'ils commencent à sortir les doigts parce que.
Justement, moi, je trouve que l'annonce de la PS4 Pro, là, tu vois, le combat entre Microsoft et Sony avec un coup de PS4 Pro et d'Xbox One Scorpio,
oui, alors ça, c'est...
moi, je pense que ça peut vraiment faire les affaires de Nintendo, quoi. Parce que pour le coup, Nintendo,
malins, oui.
Eux, ils vont carrément aller sur la vraie cible, c'est-à-dire la cible qui n'est pas plus de 300€, voire moins dans une console de jeux vidéo, qui est le mainstream, des gens qui veulent des trucs simples, faciles à jouer, que tu joues tout de suite, et qui sont rigolos pour tout le monde, tu vois. Et c'est ça leur truc. Et finalement, ouais. On est bien loin des combats entre de 4K, de 2160p, de 1440p, en HDR et tout, quoi, tu vois. C'est le vrai public.
Effectivement, maintenant c'est vrai que si Nintendo recommet la même erreur et n'a pas de développeur tiers comme sur la Wii U, et bah ils mourront et puis un jour on aura un Super Mario sur PS4 ou sur Xbox 860, 960 ou je sais pas quoi. Mais c'est un peu ça qui me fait peur, tu vois.
Écoute, bon, on verra bientôt puisqu'apparemment elle sera annoncée début octobre. Et je suis très très curieux de voir ce que c'est. Il y a déjà beaucoup beaucoup de rumeurs et d'après les bruits de couloir de l'industrie, ce serait une machine qui serait relativement puissante et pour l'instant, elle serait facile. Enfin, ce serait facile de développer.
Ils n'ont pas le choix. Non.
Et du coup, tous les espoirs sont permis. Quoi.
Tu vois justement ce que tu disais. Je suis pas d'accord sur la puissance. Ils n'ont pas le choix. Si ils ont le choix, Nintendo, la Wii U, elle est pas puissante d'une façon extraordinaire. Par contre, voilà, il n'y a pas de développeur tiers, donc ça, c'est un problème. Par contre, les jeux qu'il y a dessus, c'est des jeux qui défoncent. Il y a 5 jeux, mais ils défoncent.
Avec Xenoblade, honnêtement, c'est... C'est mon jeu de la Wii U, quoi, honnêtement.
C'est Super Mario Kart, voilà, je peux y passer des heures. Splatoon, c'est extraordinaire. Pour les gamins, en ligne, ça marche mais super bien. Mais tu vois, le problème, c'est que ça reste que du Nintendo.
Oui, mais tu peux pas concilier le fait d'avoir une console. Et encore une fois, je parle sous mon angle d'amateur à peine averti, mais j'ai l'impression que tu peux quand même pas concilier le fait d'avoir une console qui s'ouvre à des développeurs tiers de manière significative et ne pas y mettre de la ressource en termes de puissance. Les mecs qui vont développer des jeux, si on veut qu'ils se mettent à développer sur la NX en même temps qu'ils vont développer sur la Scorpio et sur la PS4 Pro, ouais. Parce que maintenant tout le monde aura des PS4 Pro, il va bien falloir mettre du jus dedans, tu vois.
Ouais, moi je me souviens d'une époque où les développeurs avaient pas vraiment le choix et ils développaient ou pour la Mega Drive ou pour la Super Nintendo et ils se démerdaient avec les outils qu'ils avaient.
Ouais, mais justement, les ressources des deux consoles n'étaient pas très élevées.
Non, ils n'étaient pas élevés. Et du coup, il y avait une sorte de créativité.
Mais c'était les mêmes.
C'est possible de faire des trucs très très beaux ou très très photoréalistes ou avec plein de lens flare dans tous les sens.
Ouais.
Faire des trucs intéressants aujourd'hui, c'est bien compliqué. Donc Nintendo, ils ont encore une énorme carte à jouer, mais par contre, il faut qu'ils soient intelligents et qu'ils gèrent les choses avec les moyens modernes. À savoir que tu passes pas 3 heures à essayer de configurer ton putain d'account Nintendo sur deux consoles. C'est un truc absurde. Quand tu veux passer des jeux que t'as achetés en digital d'une 3DS à une autre, il faut presque appeler le support Nintendo. Ils sont complètement fous.
J'ai mis 2 heures. En fait.
Tu vois, c'est marrant, c'est là que Nintendo pêche. C'est pas tant pis si elle est moins puissante ou.
C'est un jeu, ça, Nintendo pêche.
Ça pourrait. Mais enfin bref, voilà. Moi, j'attends que Nintendo me refasse rêver comme il y a quelques années. Je les attends.
Mais je pense justement que, enfin, à mon sens, ça n'arrivera. Enfin, j'en sais rien. Hein, je leur souhaite, mais je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que malheureusement. À moins qu'on soit particulièrement surpris par une trouvaille en R&D complètement incroyable, dans le meilleur des cas, ils vont faire une console qui aura des titres Nintendo, parce que c'est ce qui fait qu'on adore les consoles Nintendo, qui seront particulièrement séduisants. Et j'en démords pas du jus pour être à niveau face aux consoles concurrentes du marché. Mais c'est peut-être le mieux qu'on peut en attendre. Qu'est-ce qu'on va concrètement attendre qui fera rêver? C'est certainement pas une idée de manette déportée avec un écran.
Tu connais les rumeurs quand même. Hein, je veux dire, moi j'y crois. Juste pour dire, j'y crois. Mais je pense qu'ils ont une vraie chance. Et puis, je leur fais confiance. Bon, allez. Ça c'est mon point de vue. Après, t'as vu les rumeurs. Les rumeurs, ce serait que ce soit une console unique pour soit à la fois portable et pas portable. Bon, ben rien que ça. Déjà,
oui, ça, c'est
un game changer. Si c'est vraiment le cas, c'est un game changer.
Si c'est vrai, c'est vrai que c'est bien.
Tu vois, si les manettes sont amovibles, par exemple, ça veut dire que tu peux changer de contrôleur. Ça veut dire aussi que tu peux éventuellement utiliser l'écran de la console à autre chose. Par exemple, pour une tablette ou pour foutre dans un casque de réalité virtuelle. Il y a plein de possibilités et tout ça sans forcément déployer des trucs qui soient 4K HDR compatibles.
Exactement.
Ils ont la possibilité de faire des jeux qui sont amusants et qui sont good enough quoi, en termes de présentation et de technologie.
Oui, mais c'est enfin bon. Puis après on va reboucler parce que j'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose. Mais si jamais c'est ça, si jamais ils font une console maligne qui est par exemple à la fois une 3DS et à la fois une Wii plus puissante, assez intelligente en termes de parcours utilisateur, cross device, réseau sympa, machin. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va changer la donne par rapport à la Wii aujourd'hui, la Wii U, qui n'attire pas les développeurs tiers, enfin les développeurs tiers ne développent pas concrètement. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va suffire? J'en démords pas, je pense que c'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais c'est pas
toujours
suffisant.
Pareil. Il faut que la NX atteigne une certaine... C'est toujours le même problème des consoles, c'est-à-dire au début, tout le monde est derrière, surtout quand c'est Nintendo. Et après, ben, soit ça prend, soit ça prend pas. Si ça prend et que la masse critique est atteinte, ben, ça fait la Wii. Si ça prend pas et que la masse critique est pas atteinte, ça fait la Wii U. Mais si tu veux, il y aura quand même une différence à la base. C'est que, il y a des facilitateurs, si tu veux. Donc, si la console est bien foutue, bien conçue, maligne, c'est un facilitateur. Si elle est facile à programmer, si elle est bien connue des développeurs, si le SDK est de bonne qualité, c'est aussi un facilitateur. Il y a des choses qui étaient pas là pour la Wii U, hein, en particulier le SDK.
Il y a un problème de nom aussi.
Voilà, bah, la communication aussi, c'est un gros facilitateur. Peut-être qu'elle a été un peu loupée pour la Wii.
Peut-être qu'ils l'appelleront la Wii Pro.
Ah aussi, bonne question, tiens. La Wii Pro, ce serait énorme.
On va laisser le gaming un petit peu de côté. On va annoncer celui qui, parmi les tipeurs, aura la chance, si jamais il se manifeste, bien entendu, de se voir livrer un OnePlus 3. Et là... les commandes sont à nouveau ouvertes. Le tirage au sort a eu lieu avec des mains innocentes juste avant l'enregistrement de l'émission. Il s'agira de Valver 150. Donc, merci à toi de nous envoyer un petit message pour qu'on puisse s'organiser pour ton OnePlus 3, et puis tu nous feras un petit retour en attendant celui de Cédric dans le prochain épisode. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur les prochaines rubriques, et on avait un petit point chiffrement, Guillaume.
C'est pas gagné pour aller plus vite, hein, parce que bon.
Si, on va aller plus vite, Guillaume.
Vous n'allez pas m'inviter.
Non, mais la Chine, la Chine, alors, je sais pas si t'as vu ça, la Chine lance un satellite de télécommunication quantique.
C'est beau, ça fait rêver.
C'est tout quantique, là. Le point crypto, il est tout quantique. Parce que bon, mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Parce que moi, je me suis quand même posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est malin, c'est assez malin. Alors, je vais essayer d'expliquer quand même, si je le fais rapidement. Le satellite de télécommunication en question, il va permettre d'échanger entre deux points très très éloignés de la Terre, a priori, des clés de chiffrement. Donc tout ça, jusque-là, il n'y a pas de truc très très... voilà. Mais de manière complètement sécurisée, c'est-à-dire de manière sécurisée par les lois de la physique. C'est-à-dire même plus par la complexité de casser les codes, tout ça. Tu vois. Donc je rappelle, donc là je fais un confère, la CDC sur le chiffrement qu'on a fait il y a je ne sais pas combien de mois, pour établir une communication sécurisée sur Internet, en général on échange les clés de chiffrement. Parce que, pour chiffrer un message, il faut une clé. Il faut que les deux gens ils aient la même clé, parce que sinon, ils ne se comprennent pas. Donc, il faut échanger une clé. Mais comment on fait pour échanger une clé sur un canal qui n'est pas sécurisé? Eh bien, on utilise donc des procédés de valise diplomatique, hein, où, grosso modo, on a une méthode pour faire transiter la clé, de manière à ce que si le mec qui voit passer la clé ne puisse pas la décrypter. Donc on crypte la clé d'une certaine manière, on confère la CDC, et la sécurité de ce truc-là, c'est sécure parce que pour décrypter la clé, il faut faire des calculs de fou furieux. Bon. Seulement, c'est de moins en moins vrai, c'est-à-dire les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, et puis il y a aussi toujours cette espèce d'ordinateur quantique qui n'existe toujours pas, mais qui fait peur à tous les spécialistes de la cryptographie, qui permettrait de décrypter instantanément tous les trucs, parce qu'ils pourraient factoriser des grands nombres comme qui rigolent. Bon. D'où la télécommunication quantique. Alors, qu'est-ce qu'on envoie de manière quantique? On n'envoie pas le message, mais on envoie les clés. Et en fait, ce que je me suis rendu compte que finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait une clé d'une manière qui était assez compliquée, c'est basé sur des émissions de photons polarisés, et ce qui se passe, c'est qu'on envoie les bits via des photons polarisés, et ces photons polarisés, on en envoie beaucoup en fait, hein, et ils sont mélangés, c'est-à-dire on mélange le message avec un message aléatoire, grosso modo, hein. Et ce qui se passe, c'est que si quelqu'un est au milieu et essaie d'espionner, il va intercepter le message. Mais s'il intercepte le message, il va falloir qu'il en réémette un de message, parce que sinon le mec en face, il va comprendre qu'il y a quelqu'un qui intercepte. Sauf que la méthode quantique, enfin la mécanique quantique, permet de s'assurer que si le mec qui est au milieu réémet le message, il va forcément le réémettre en faisant des erreurs. Et donc, en mesurant le taux d'erreur de transmission, on peut savoir non seulement s'il y a un mec qui est au milieu, mais combien il a intercepté de données utiles. Et on peut donc rejeter la clé si celle-ci est compromise. Donc c'est quand même assez malin comme truc. Et enfin voilà, donc c'est super intéressant. Je vous conseille d'aller voir, de vous documenter là-dessus. C'est très très rigolo.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine met en œuvre des méthodes de chiffrement pour, j'imagine, les Chinois, j'en sais rien, pour des échanges plus sécurisés. C'est quoi? Je comprends pas. J'ai compris ce que tu viens de détailler, mais je comprends pas la finalité en fait.
Bah, la finalité, c'est d'avoir des échanges de clés donc de cryptage qui soient impossibles, enfin qui soient théoriquement, grâce à la physique théorique, hein, donc, qui soient absolument impossibles à intercepter sans être détecté.
Mais entre Chinois, entre entreprises chinoises, gouvernement chinois, à l'étranger,
et écoute,
etc.
C'est, là, si tu veux, c'est quand même une expérience scientifique. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment dire que je ne suis pas sûr que ce truc...
Ah d'accord, c'est pas une finalité d'usage immédiat. C'est plus pour les besoins de la science
immédiat,
sur le plan chinois.
C'est aussi... Ben oui, parce qu'au début, on a commencé à s'envoyer des trucs à quelques mètres, à quelques kilomètres, à quelques dizaines de kilomètres. Et là, le satellite permettrait de faire ça entre deux points très éloignés, donc de la Chine et potentiellement du monde. Donc en fait, pour l'instant, il faut le voir quand même comme une grosse expérience grandeur nature qui préfigure donc une ère de la cryptographie quantique pratique, c'est-à-dire qui est dans notre vie de tous les jours, quoi, qui peut être utilisée dans notre vie de tous les jours.
Et Google font des choses un peu similaires, non, c'est ça?
Alors absolument pas. Mais non, Google, eux, ils sont carrément dans le flic.
Moi, dès qu'il y a quantique et quantum dans deux lignes différentes, je les associe, tu vois.
Non, mais je comprends. Mais en fait,
Quantum n'était pas une série de Google, hein, je te le dis tout de suite.
Ah merde!
Mais oui.
C'est une série quantique, quand même. C'était... Donc, qu'est-ce qu'ils foutent chez Google? Mais chez Google, ils sont flippés. Les mecs, ils se disent on va bientôt avoir des ordinateurs quantiques. Peut-être pas, on sait pas. Mais peut-être on va les avoir. Et quand on les aura, eh ben, les systèmes de cryptage actuels, ils vont tous tomber d'un coup. Donc c'est un petit peu anxiogène, et c'est tellement anxiogène que Google expérimente de nouveaux algorithmes de cryptage. Alors, donc je l'ai mentionné là, sur l'Olalus sur la Chine, les algorithmes de cryptage actuels, ils sont basés sur la difficulté de factoriser des nombres, des gros nombres. Voilà, donc factoriser des nombres, ben c'est chiant, quoi. C'est-à-dire, il faut essayer, quoi, en gros, de diviser les nombres. Quand ils sont très gros, ça prend vachement de temps, et donc du coup, ben, c'est chiant. Alors, il y a des algorithmes quantiques qui permettent de faire ça super vite. Donc ils se sont dit, ben, il va falloir trouver des algorithmes de cryptage qui ne reposent pas sur ce type de problème, c'est-à-dire un problème de factorisation, mais sur des problèmes combinatoires différents. Et ils en ont trouvé un. En fait, ils en ont trouvé même plusieurs, mais disons qu'ils ont choisi le Ring Learning with Errors, qui est donc un procédé de cryptage totalement différent de la cryptographie RSA ou même des courbes elliptiques. C'est un procédé de cryptographie qui repose sur un problème combinatoire. Alors, c'est un problème combinatoire sur des structures mathématiques un petit peu compliquées, donc on va surtout pas détailler. Mais il faut juste savoir que c'est un algorithme totalement différent qui, pour l'instant, est totalement à l'abri du hacking quantique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'ordinateur quantique, mais les mecs de chez Google sont déjà en train d'expérimenter entre les serveurs de Google des techniques de cryptographie qui sont quantum proof. Et je trouvais ça rigolo.
Ah oui, c'est très rigolo, effectivement.
T'es mort de rire, d'ailleurs.
Écoute, excellent. Non, ça fait beaucoup rire. Je suis vraiment mort de rire. Un dernier chapitre avant de passer au bonus. On avait prévu plein de choses, mais l'émission est déjà conséquente. Ce que je vous propose, c'est qu'à tour de rôle, vous piochiez un seul sujet. On va être obligé de les trier. Tu piocheras celui que tu veux au hasard et puis qu'on rebondisse un petit peu dessus. Alors Tom, justement, s'il y a un sujet que tu veux garder parmi cette rubrique, vous pouvez retrouver tous les sujets sur les notes de l'émission, mais il y en a qu'un chacun qu'on va traiter dedans. Ce serait lequel?
Ah bah c'est le Thai Slim, il va me permettre de
c'est une marque de jeans.
Exactement. Est-ce que tu sais ce que c'est, Guillaume, toi? Les deux Guillaume?
Non, moi je sais pas.
Non.
Guillaume.
Bah, c'est un petit carré en fait qui te permet de que tu mets dans ta poche.
Ah mais
que tu
si
mets
j'en avais
objet.
Parlé il y a de ça un moment.
Voilà, et bah il y a la deuxième version qui vient de sortir. C'est donc un tout petit objet connecté qui te permet de retrouver ton porte-monnaie ou ton téléphone, inversement, si tu as la petite brique que tu mets dans ton objet, de retrouver ton téléphone et inversement. Et ça vaut pas très très cher, je crois que ça vaut 30 $ l'unité. Ça marche plutôt pas mal et j'en ai commandé un, juste pour essayer.
Alors moi, la question que je me posais, alors si mes souvenirs sont bons, ce petit appareil, il est doublement utilisable. Il est utilisable en Bluetooth.
C'est ça.
Donc, c'est-à-dire qu'avec la portée du Bluetooth, il arrive à être géolocalisé. Et si jamais tu paumes ton truc dans le train et que tu fais... les autres utilisateurs de Tile... Enfin, en gros, tu peux déclarer ton Tile comme perdu et les autres utilisateurs de Tile... En gros, arrive à le géolocaliser et à remonter l'endroit où il est. Sauf que je serais curieux de connaître le maillage des utilisateurs de Tile en France, par exemple.
Je ne saurais pas te le dire.
Donc, très utile pour des petites pertes à petite distance, on va dire. Ce qui est déjà pas mal.
Exactement.
Parfait. Guillaume, c'est quoi ton sujet que tu voudrais garder de cette rubrique complémentaire ?
Bah, allez, un truc rigolo, le Duoskin. C'est un truc de Microsoft Research. C'est ça consiste en des tatouages métalliques qui permettent de servir d'interface. Concrètement, on applique des petites feuilles métalliques, en particulier des feuilles d'or qui sont biologiquement neutres sur la peau. Et ça permet d'avoir, ça dépend un petit peu de ce qu'on met dedans, bien entendu, de la forme que ça, mais ça permet de faire soit des puces NFC, par exemple, on peut s'en servir comme puces NFC, ça peut faire des périphériques d'entrée, donc des sortes de petits claviers ou de petits trucs pour slider, là, des petits trucs tactiles qui peuvent commander le téléphone, enfin n'importe quoi, tout ce qui est connecté avec. Et ils sont même capables d'intégrer des petites LED dedans, donc ça peut carrément faire des tatouages qui s'illuminent et qui peuvent être d'ailleurs connectés à des trucs, par exemple, qui surveillent ton rythme cardiaque ou quoi. Donc il y avait un petit exemple où, effectivement, en fonction de ton rythme cardiaque, ton tatouage s'allume plus ou moins en rouge. Je trouvais ça assez rigolo. C'est pas très cher, c'est relativement simple, finalement, de conception. Et, écoute, c'est fashion, c'est original.
C'est vrai que c'est assez rigolo. Moi, je suis de plus en plus marqué au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes de Tech Café. Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Il y a un jeu de rôle papier, enfin un univers même qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Shadowrun, qui décrit un univers assez curieux, assez parallèle, parce qu'il y a quand même de la magie, des trucs comme ça. Mais sur le plan technologique, il y a des trucs qui étaient décrits dans Shadowrun quand j'y jouais, j'étais ado, qui se réalisent. C'est assez captivant, je trouve, et qui deviennent vraiment des trucs réels d'aujourd'hui. C'est assez captivant.
Ah, mais c'est complètement SF, c'est pour ça que j'ai...
C'est SF à mort. Moi, je voulais faire un petit clin d'œil au Samsung Go Feel avec ce qui se passe sur les Galaxy Note 7, qui est pour moi assez déroutant. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, outre de rappeler le fait qu'il y a une série de Samsung Galaxy Note 7 qui prennent feu, notamment en Europe et je crois depuis peu en Australie, et qui crée une situation assez complexe pour Samsung entre le fait qu'ils doivent échanger les produits, que c'était pas prévu, qu'ils ont été distribués de telle manière que c'est pas forcément évident pour procéder à des échanges. On sent à ce niveau-là que c'est compliqué pour eux et j'imagine qu'ils font le maximum. Ils vont sortir un patch là, qui va être dispo dans quelques jours, qui va limiter la charge de la batterie à 60%.
Donc
ça va être un peu dommage.
C'est le premier patch anti-explosion.
C'est un patch, mais c'est vrai, c'est ça en plus, c'est le premier patch anti-explosion, t'as totalement raison, qui va éviter de charger à fond la batterie, ce qui engendre a priori, ce qui est un contexte favorisant fortement l'explosion ou nécessaire à l'explosion. Je suis quand même assez étonné, Guillaume, sur le plan technique, est-ce que tu as des billes pour nous expliquer ce qui se passe sur ces Galaxy Note 7 ou est-ce qu'on n'en sait rien du tout ?
Alors, ce qui peut se passer, c'est que effectivement, c'est une surchauffe de la batterie. Hein. La batterie, elle est pilotée par une électronique qui est
Il y a pas un garde-fou
elle-même. Si, justement.
Parce que tu sais, le ordinateur, il se coupe si jamais le processeur il atteint une certaine température. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas pour les batteries ?
C'est le cas hein, en général. C'est-à-dire qu'en général, effectivement, les batteries contiennent des petits garde-fous, comme tu dis, hein, des petites choses qui coupent en cas de surchauffe. Parfois, c'est même les appareils eux-mêmes. Parfois, les appareils, si tu veux, ont des capteurs, et souvent, c'est la batterie elle-même qui s'auto-coupe. Donc, je ne sais pas si ce sont les batteries ou si ce sont les Note 7 qui sont en cause, mais je ne suis pas sûr que les Note 7 puissent s'ouvrir de toute façon, donc le problème est le même, quoi, globalement. Mais je pense qu'effectivement, les batteries ont un problème de capteur et elles surchauffent dans certaines conditions, quoi, et donc ça explose assez facilement si ça surchauffe. Ouais.
Je pense que c'est quand même les boules pour Samsung. En plus, il a été encensé par les critiques, cet appareil, et ça fout vraiment doublement les boules. On va passer au bonus. Bonus pour cet épisode 35 de Tech Café, Guillaume Poggiaspala, qu'as-tu prévu ? Est-ce que c'est un bonus, un coup de cœur, un coup de gueule, un clin d'œil ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est un gros coup de gueule, c'est un gros coup de gueule. Mais alors, je ne sais pas si vous êtes joueur de Pokémon.
PS4 Pro, on a déjà fait. Hein.
Ah oui, ouais, non, mais la PS4
ouais, toujours
c'était
un petit peu
un coup de gueule. Moi, bon, mais là, c'est un vrai coup de gueule parce que je trouve ça d'une connerie extraordinaire. J'ai mis à jour Pokémon Go. Alors, je ne sais pas si vous avez vous-même mis à jour Pokémon Go.
Ouais, bien sûr.
Et j'ai eu la surprise de voir que mon téléphone n'était plus compatible.
Non.
Alors, la vraie question, c'est un LG G3 sous Marshmallow, hein, je précise. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi. Et apparemment, il semblerait que ce soit à cause d'un route. Alors, le truc, c'est que mon téléphone n'est pas routé, mais je l'ai routé par le passé. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je teste avec une application, il me dit qu'il n'est pas routé. Mais apparemment, Pokémon Go le détecte routé. Et donc, j'ai découvert que la dernière mise à jour de Pokémon Go interdisait les téléphones routés et jailbreakés.
Punaise.
Donc, sur iOS. Et j'ai trouvé ça d'une connerie extraordinaire. Parce que, évidemment.
C'est même flippant qu'un jeu arrive, une application arrive à identifier que l'OS, non pas est routé, mais a pu être routé. Enfin, en termes de droit et de permission de l'application par rapport au système d'exploitation, c'est un peu flippant, non?
Ben, moi, je me pose la question. Parce que, bon, je télécharge une appli spéciale pour savoir si je suis routé, il me dit que non. Et pourtant, bon, voilà, apparemment, il détecte le route que j'ai fait. Alors, si vous voulez toute l'histoire, en plus, c'est un route que j'ai fait pour pouvoir installer un custom. Un custom recovery pour un patch qui permettait de... parce qu'il y a un problème sur LG G3, il y a un over-sharpening des textes, c'était chiant, enfin bon. C'est un truc que j'ai fait il y a un an, quoi. Et il le détecte toujours, et je sais pas, enfin en tout cas, voilà, j'ai l'impression que les ROM custom, ça passe pas non plus.
C'est un truc que t'as constaté, qui a été constaté et partagé sur le web, ou c'est un truc que t'as constaté dans ton coin?
Non, c'est officiel. C'est-à-dire qu'officiellement, Niantic interdit les téléphones routés ou jailbreakés dans leur dernière mise à jour. Donc c'est absolument fabuleux parce que, sous prétexte qu'il y a des tricheurs qui utilisent des téléphones routés, certainement, tu interdis les téléphones routés de tout le monde.
C'est complètement.
Attends, mais c'est extraordinaire la connerie. Je veux dire, ils perdent des joueurs et là, ils interdisent tous les téléphones routés et jailbreakés. Et je veux dire, tu vas faire quoi? Enfin, moi, je vais faire quoi, là? Je vais régler mon téléphone en fonction de Pokémon Go. Je vais régler ma vie en fonction de Pokémon Go aussi.
Mais tu ne veux pas le faire.
Ils n'ont pas de cerveau. Je ne vais pas le faire. J'ai réfléchi, mais non. Enfin, non,
je comprends la frustration du truc, en tout cas. C'est assez déroutant. Et moi, je te dis, ce qui me fait flipper, c'est de savoir qu'une app est capable de savoir que ton smartphone a été routé alors qu'il ne l'est plus.
Mais Android Pay aussi, hein. Android Pay, mais il y en a plein en fait. Hein. Toutes les applis, enfin, beaucoup d'applis qui sont un petit peu sensibles dans le sens où tu peux faire des transactions avec et tout. Donc il y a Android Pay, il y a aussi des applis, je ne sais plus.
Android Pay, tu vois, ça justifie à double titre, c'est qu'il y a du paiement effectivement et qu'en plus c'est Android quoi. Enfin, tu vois, c'est Google c'est la même boîte qui est derrière. Ouais, tu peux comprendre qu'ils accèdent à des trucs comme ça. Niantic qui a accès via leur application au
Google. C'est un scandale total. Attends, mais le pire, c'est qu'ils n'ont vraiment pas de cerveau chez Niantic. Hein, parce que non seulement. Non, mais écoute, ils mettent en place des fonctions, ils laissent les gens les utiliser, et après, ils les retirent pour créer le maximum de frustration. Ça a été ça avec les radars, parce qu'ils ont été complètement cons. Ils ont introduit leur jeu, il n'était pas fini, quasi en alpha. Ils ont ouvert leur serveur. Donc évidemment, tout le monde s'est mis à utiliser leur serveur pour faire des radars. Du coup, ils ont été surchargés. Du coup, plus personne n'a pu jouer correctement. Donc après, ils ont fermé. Mais en attendant, les gens ils ont utilisé les radars. Les radars tiers, les radars sur Internet. Du coup, frustration. Après, ils avaient les trois pattes, tu sais, pour détecter les Pokémon. Il y avait le radar Pokémon intégré.
Oui, c'est vrai.
Bon, ça marchait bien, ça marchait pas bien. Ils ont fini par le virer. Du coup, ils n'ont jamais rien rajouté. Donc, ça veut dire que maintenant, on est complètement aveugle. Donc, ils ont mis un truc, ils l'ont viré, frustration maximale. Et là, c'est le pompon. Les mecs, ils jouent pendant 3 mois à Pokémon Go, ils sont au niveau 20, et du jour au lendemain, pouf, ils sont kickés. Je veux dire, tricheur, pas tricheur, tout le monde s'en bat les couilles. T'as un téléphone routé, t'es kické, point barre. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? S'ils veulent une shitstorm, ils ont qu'à continuer, et elle est en route. Donc écoute, des installations immédiates.
Effectivement. Bah ouais, je comprends. Mais je suis sûr que tu le réinstalleras dès qu'ils ont retiré cette.
Je le réinstallerai peut-être s'ils font marche arrière, mais je crois pas des masses. Hein.
Ah, moi, je suis curieux de savoir comment ils font en fait pour checker que t'as routé. Parce qu'en théorie, je sais pas si c'est un fail safe à l'intérieur du téléphone, tu sais, plutôt un software qui fait switcher un truc à l'intérieur, ou je sais pas, mais c'est fou quand même qu'ils arrivent à le détecter.
Flippant.
Bah, Tom, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait flipper, toi aussi, qui t'énerve ou qui t'emballe en ce moment?
Qui m'emballe, moi. Est-ce que vous connaissez Reign? R-E-I-G-N-S.
On n'a pas déjà parlé.
Le fils de Devolver. Est-ce que vous connaissez Devolver? Hotline Miami, c'est légèrement, ce jeu légèrement violent en pixels. Et bah, il y a Nerial qui est une petite boîte qui a développé un jeu et c'est Devolver qui fait donc le publishing. Ça s'appelle Reign. Et pourquoi c'est le fils de Tinder et de Devolver? Parce que ça se joue comme Tinder, en fait. Si on peut dire que Tinder se joue. C'est-à-dire que en fait vous êtes un roi et vous essayez de régner sur votre royaume, et avec des décisions sur les cartes en swipant à droite ou à gauche, vous allez plus ou moins vivre longtemps. Et c'est très 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 prenant, c'est drôle, c'est fun, on peut y jouer 5 minutes comme on peut y jouer des heures, c'est addictif, je vous le conseille, ça vaut 3$, c'est excellent. Tous les gens à qui je l'ai conseillé continuent à y jouer et ont du mal à s'arrêter.
Tu connaissais, Guillaume?
Oui, j'en ai beaucoup entendu parler, ouais, c'est un truc que j'ai peut-être testé.
Elle est très bon.
Ce qui est marrant, c'est que si on met ça en regard de Super Mario Run, on se dit que finalement, il y a peut-être beaucoup plus, et ça illustrera peut-être votre position de tout à l'heure par rapport à la NX, hein, mais il y a vachement de créativité gameplay peut-être dans ce jeu-là, alors que finalement, les ressources techniques sont assez peu exploitées, et c'est intéressant de voir qu'on arrive à être très créatif sur un format de jeu mobile, alors que bah voilà, Nintendo va peut-être faire un runner.
Mais peut-être un très très bon. C'est juste formidable.
Mais juste pour comprendre, c'est un grand jeu auquel tu peux jouer et qui continue de vivre pendant que tu le lances pas, ou est-ce que c'est un jeu?
Non, il y a beaucoup de cartes. C'est-à-dire que c'est un jeu de cartes. Tu as ton règne comme roi et tu as certaines tâches à accomplir et il faut réussir à les accomplir en analysant les réponses et les mouvements que tu vas avoir par rapport à la religion, par rapport au peuple, à l'armée et à l'argent. Donc pour te donner un exemple, si tu remplis trop les caisses du royaume, tu fais des grosses fêtes qui te font monter ton cholestérol et tu meurs en fait d'une crise cardiaque. Donc c'est une des morts, des innombrables morts, je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine. Et c'est vraiment il y a beaucoup d'humour noir, moi j'adore quoi. C'est vraiment le jeu auquel je joue en ce moment.
Mais donc on peut faire plein de parties, on est d'accord, c'est pas des grandes parties.
Écoute, je crois que le premier règne commence, donc la première partie commence en l'an 600 et quelques, et moi je suis déjà en l'an 1680 et des...
D'accord, donc il y a une progression, c'est ça l'idée aussi.
Ouais, mais il y a des trucs qui sont très difficiles à réaliser, puisque des fois tu meurs avant, des fois tu as des règnes très très courts, d'une ou deux années, des fois tu as des règnes de, moi mon record je crois que c'est 59 ans. Donc, essayez, ça vaut vraiment.
Au pire, tu meurs de vieillesse quand même.
Ouais, je suis pas mort de vieillesse. Moi, j'ai trop bouffé, j'ai trop fait la fête et je suis mort. Voilà encore.
Ça m'étonne pas de toi, de toute façon, ça. Merci beaucoup. Ça fait un petit moment que tu m'en parles de manière détournée. Je pense que là, je vais l'acheter. C'est 3€ sur l'App Store. C'est sur Android aussi,
oui,
ou pas? Bon, à 3€ aussi.
Ah, ouais, il me semble, ou c'est un petit peu plus cher sur Android pour une fois. Mais bref.
Merci pour cette reco. Moi, j'ai pas de bonus, tant pis pour vous. J'ai déjà pas préparé le doc de l'émission, c'est tout Guillaume qui l'a fait et Tom qui a complété des trucs. Moi, j'ai absolument rien foutu dessus. Je suis un grand branleur et donc je ne rajoute rien en bonus. J'ai pas eu trop le temps, mais par contre, on va rappeler aux uns et aux autres où est-ce qu'on peut nous solliciter individuellement sur le web. Tom, où est-ce qu'on peut te contacter et où est-ce qu'on peut te retrouver?
Essentiellement sur Twitter, Oxide, O-X-I-D-E.
Merci Tom. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Lequel?
Non, on peut me retrouver avec un katana dans les locaux de Niantic.
Et sur Firefox.
On va te racheter un smartphone non routé, rien que pour que tu puisses jouer à Pokémon Go. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Twitter, sur Facebook et sur techcafé.fr dans les commentaires. Comme vous pouvez d'ailleurs interpeller Guillaume Poggiaspala et Tom sur les commentaires, sur les propos qu'on a tenus les uns et les autres. On compte sur vous pour partager cette émission à votre entourage, à vos proches technophiles, sur les réseaux sociaux. Faites-nous un maximum de visibilité, ça nous aide énormément. Je renouvelle l'appel du début de cet épisode avec vos commentaires sur iTunes. Et puis, Valver 150, à très bientôt par mail. À très bientôt à vous qui nous écoutez depuis tant d'épisodes. Ciao, ciao.
Gros bisous.
Ciao.